Avertissement à tous ceux qui nous écoutent dans leur voiture ou camion. Bouclez votre ceinture. Interdiction de boire. Pour les prochaines minutes, toute votre attention doit être sur votre radio. Car c'est Radio Shock and Friends qui débute à l'instant.
Radio Shock and Friends. Okay, good evening. This is your captain speaking with just a little flight information.
Attache ta ceinture. Toute l'équipe de Radio Shock and Friends se prépare au décollage.
Hey, bonsoir tout le monde, bienvenue à Radio Shock Live and Friends sur les ondes de XM172.
Hey!
Ça va bien, mon Doff?
Ça roule, on va dire.
T'es dans les papiers, mon Doff, on dirait que tu nous prépares toute qu'une soirée de statistiques.
Ce n'est que de la poudre aux yeux.
Oui, c'est vrai que tu vas être prêt, parce que ce soir, on vous réserve un petit spécial science-fiction, donc soyez avec nous, ça va être intéressant, mon Doff, je pense, avec tous les chiffres que t'as l'air à nous sortir là.
Science-fiction puis technologie, je te dirais. Il n'y a pas juste la science-fiction, l'évolution des technologies, un peu tout ça.
On va regarder tout ça.
Belle calotte en passant, hein?
Oui, tu l'aimes, hein?
Je l'aime, mais...
Belgium.
Mais fais attention,
Brussels.
Hein?
Ouais.
Fais attention, hein?
C'est ce que tu me disais avant d'entrer en onde.
La perte de cheveux.
La perte de cheveux.
Ouais.
Tu checkes ça de près, mon Doff, hein?
Non, j'ai jamais été porté sur la calvitie.
Non, mais ça te fait peur. Ça te fait peur.
Absolument pas.
Non?
Non, absolument pas. Non, mais c'est parce que je te vois souvent avec des calottes.
Souvent?
Ben, toutes les fois que t'en as une, au moins, je te vois avec pas mal.
Oui, mais c'est rare. Je te dirais que c'est rare. Dans l'année, je peux... Quatre...
Mettons cinq fois.
Cinq fois par mois, peut-être.
Ouais, non, c'est sûr.
Pour ça beaucoup?
Ben, en tout cas, c'est quand je te vois pas toujours non plus, mais quand je te vois, souvent, t'en as une. Puis, fais attention à tes cheveux.
Doff qui se préoccupe de mes cheveux. Hey, on va saluer notre... Saluer? Je vais en dire avec un accent haïtien.
Witness qui a plus de cheveux, il a mis une calotte.
Non, lui, il y en a beaucoup d'ailleurs. Salut Witness, ça va bien? T'as l'air être en forme, mon ami. On va ouvrir ton micro, ça va toujours mieux.
Ça va toujours mieux, ouais.
Ouais.
Ouais, je suis en forme. Ouais.
T'es en forme?
Ah ouais.
Mais il frise plus qu'avant, par exemple, Witness, j'ai remarqué.
Ah, arrête donc.
Ça, c'est le fret.
C'est ça.
Hey, en plus, on a notre ami Tess Domi qui est là. Salut, Tess Domi.
Allô, gang.
Hey, salut, Tess.
On est-tu, international, cette émission-là?
oui, je peux prétendre être, mettons, en Inde, là.
Non, mais ce que je veux dire, Montréal, c'est quand même la planète Montréal, hein, ça fait partie d'une autre constellation, des fois, on dirait, Montréal.
Oui, mais il fait plus 15 à Montréal.
Ah oui, les autres, en partant, il fait tout le temps plus chaud.
Ah oui, il fait plus 15.
Hey, salut, Tess Domi.
Bonjour.
Ça va bien?
Ça va, vous autres.
Oui, ça va. Hey, laisse-moi te poser une question, parce que là, depuis deux, trois jours ici à Québec, on entend parler beaucoup de l'histoire Steph Dupont.
Okay.
Et là, avant qu'on rentre dans le sujet ce soir par rapport à notre sujet principal qui est la science-fiction, je voulais savoir, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui attire l'attention des Montréalais ou c'est vraiment une petite guéguerre entre notre ami Jean-René Dufort et Steph Dupont? Premièrement, en entendu...
Prends ton temps.
Est-ce que tu as entendu parler de cette histoire-là?
Non.
Non?
Non.
Bon, ça veut dire que c'est pas si terrible que ça.
Alors, si on se fie... Alors...
Ça veut peut-être dire que j'aurais pas l'intérêt non plus de regarder c'est quoi les histoires de chicanes qu'il y a entre des gens qui passent à la télévision.
Ouais, ben là, c'est parce que depuis hier, ça tourne, surtout depuis qu'Infoman a fait sa sortie publique hier, parce que juste pour en parler un peu par rapport à nos auditeurs qui nous écoutent un peu partout au Canada et aux États-Unis, c'est qu'on a un animateur dans la région de Québec, Steph Dupont, qui, sans dire qu'il est allé à la défense, je pourrais dire sanctionner un peu l'approche de Jérôme Landry, qui le matin à Choix FM avait parlé un peu de ses contributions personnelles dans le cadre de des demandes qu'on voit là par rapport à tout ce qui se passe en Haïti et tous les télétons, les programmes de restructuration qui visent à aller chercher de l'argent pour justement envoyer ça à nos Haïtiens. Donc Jérôme Landry qui est allé d'une affirmation comme de quoi lui le 10 ou 15 ou 20 $ il mettrait plutôt sur une bouteille de vin. J'avoue que peut-être que la bouteille de vin dans sa réflexion a peut-être dérangé quelque peu. Mais Steph Dupont, lui, qui est un autre animateur de cette même station, le midi, lui, je pense qu'il a été encore un peu plus loin en disant que ben cette réflexion-là, lui, il la partageait, puis pour X raisons, dont celle qui était à l'effet que ben les Haïtiens ben vivent dans un trou en marde, qu'Haïti, il n'y a rien à faire là-bas, ainsi de suite. Donc, pour lui, il voyait pas l'intérêt. Et surtout, ben par les expériences passées, c'est sûr que c'est pas toujours le cas, mais assez souvent, l'argent ne se rend pas là-bas. Ça, on le sait, on a vécu des histoires. Donc, c'est un peu le personnage aussi autour de ça. Steph Dupont, qui est un peu gauche dans son approche, c'est quelqu'un qui est un peu aussi rough hein, dans ses propos. Bon, et là, Jean-René Dufort, qui lui en a fait une couverture première par rapport à Jérôme Landry, qui avait dit vouloir investir son argent plutôt sur une bouteille de vin que sur une donation par rapport à Haïti. Mais là, ça avait pas fait le bonheur de Jean-René Dufort, parce que Steph Dupont s'en est pris à Infoman, et là, ben hier, on a eu le retour de l'ascenseur, et là, c'est ça qu'on se demandait ici, parce que c'est le talk of the town dans la région de Québec. C'est sûr que c'est plus petit Québec. Ça, c'est le côté que je reproche un peu des fois à Québec. Ça prend pas des grosses histoires pour, je pourrais dire...
Pour faire une histoire.
Ouais, pour faire une histoire, pour animer l'éducation, les discussions, mais là, tu me confirmes, Tess Domi, que c'est pas le talk of the town à Montréal.
Ben non, mais je peux te aller avec une opinion personnelle?
Oui, vas-y oui. Donc.
On s'en calisse dessus.
Oui, mais...
Qu'est-ce que le gars peut dire que ça lui tente de mettre de l'argent sur une bouteille de vin?
Oui.
Il a droit à son opinion.
Mais...
Si quelqu'un d'autre veut mettre le 20$ et l'envoyer à Haïti, good, tant mieux. Ça prend des gens pour le faire, puis on peut pas convaincre tout le monde.
Mais moi...
C'est une crise qui va attirer plus l'autre gars, mais bon... Il a le droit à son opinion, mais moi, je m'en fous.
Mais Tess Domi, qu'est-ce que tu penses de ça, toi, que la télé d'État, qui travaille à partir de nos argents, entre un peu dans une guerre comme ça? Je peux comprendre deux stations privées qui veulent mousser peut-être des fois des codes d'écoute en jouant la carte de la controverse, mais qu'est-ce que tu dis de ça, toi, Infoman, qui est rendu à régler peut-être des comptes personnels? Parce que c'est sûr que Steph Dupont, j'ai pas tout dit, il est allé ressortir l'histoire avec Roxane Saint-Gilet le matin, l'histoire avec... Bon, vous avez entendu parler, là, à C'est quoi, oui, là? Hein?
C'est longtemps, ça, Roxane Saint-Gilet, ça fait longtemps.
C'est sûr que ça fait longtemps, mais c'est par ça que Stéphane Dupont est allé piquer Jean-René Dufort.
Wow.
Donc, c'est sûr que, comme je te dis, à Québec, c'est le talk of the town, mais je voulais valider ce soir parce que je me suis dit, on va voir un Montréalais au bout du téléphone. C'est sûr que t'es pas nécessairement représentatif de l'île entière, mais je pense que tu es en train de nous dire que c'est pas vraiment ce qui roule partout.
Ben, je le vois pas, mais il faut dire non plus que j'écoute pas TVA, moi, fait que...
Ouais.
Je peux pas dire que ça passe là, mais je l'écoute pas, tu sais.
OK. Non, c'est bien. Mais juste pour dire à nos auditeurs, ben, il y a Patrice Lagacé qui aujourd'hui a écrit dans son blog un billet là-dessus.
OK.
Et, ben, c'est sûr, Jean-René Dufort qui est allé avec sa sortie hier.
OK.
De 3 minutes.
T'sais, pour répondre à ta question, qu'est-ce que je pense de la société d'État qui s'en mêle? En fait, c'est parce que c'est deux têtes fortes qui sont là depuis longtemps, qui profitent probablement de leur standing pour pouvoir remettre les pendules à l'heure. Mais la journée où ce que quelqu'un en haut va dire « OK, ça suffit », ça arrête, là, tu sais.
Ben, moi, je veux dire, comme je te dis, j'accepte pas ça d'une télé d'État parce que je me dis, la télé d'État a une autre mission. Je pense que c'est celle d'accompagner une collectivité comme la nôtre dans son développement. Le volet culturel, c'est important. L'humour aussi, c'est important. Mais je pense que si on commence à assister à une émission de lynchage comme ça, je vais faire un autre comparatif. Je sais pas d'ailleurs si mes amis en studio écoutent aussi l'émission 3600 secondes d'extase, c'est ça?
Mm-hmm.
C'est aussi un peu le genre d'émission où on fait de l'humour un peu satirique, où on règle des comptes aussi avec des fois la colonie artistique. Puis là, je pense que des fois, on embarque dans une guerre, justement, Québec-Montréal, parce que à Québec, on reproche souvent à la radio de Québec de jouer cette carte-là, là, offensante, de propagande là, haineuse envers certains membres là, de la collectivité, là, surtout du monde artistique.
Okay.
Mais en tout cas, fin de la parenthèse, on s'étendra pas là-dessus, mais comme j'ai dit, avoir quelqu'un de Montréal lui poser la question, c'est toujours intéressant. Là, ce soir, on a un sujet que je pense qui va intéresser les gens. Tout le monde est en petit cul, je pense.
Imaginez le futur.
Ben oui, parce que il était une époque, et quand je faisais mes recherches cette semaine, surtout sur YouTube, en essayant de trouver des archives,
vidéos, hein.
Des petites vidéos, des choses du genre, je me suis rendu compte que il était surtout aux alentours des années 70, je devrais dire, des années prolifériques où on avait beaucoup, beaucoup d'émissions et de films à saveur de science-fiction.
Cosmos 1999.
Excuse-moi, t'as dit quoi?
Proliférique, ouais, c'était ouais, pas très beau, c'était
pas très bon, hein.
C'est prolifique.
Ça a pas rapport avec prolifique ou profiter. OK, c'est beau.
Mais des fois, il fait des mots de même, il en invente un peu, ouais, notre hein? Smart. Surtout quand il y a sa calotte.
Proliférique, hein?
Ouais, prolifique. Mais ça existe pas, ça, prolifique?
C'est prolifique.
Prolifique?
Ah, prolifique.
Oh!
C'est polytechnique.
Proliférique, c'est peut-être un projet de construction au Québec, là.
Non. Il n'y a pas de proliférique en construction. ouais, c'est ça. Non, mais tout ça pour dire que dans les années 70, même, je dirais, les années 60, là, y en avait beaucoup. C'est sûr que c'est peut-être...
Les drogues étaient plus fortes aussi.
Les drogues étaient plus fortes, peut-être. mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de séries là quotidiennes qui jouaient à la télé. Ouais. Aujourd'hui, c'est sûr qu'on reprend ces classiques-là. C'est ça que je trouve un peu plate, c'est qu'aujourd'hui, on a de la misère peut-être à réinventer le genre. Mais à l'époque, ce qui était le fun en plus, c'est qu'on nous montrait des choses des années 90, 2000, 2010.
Ouais.
Souvenez-vous de Cosmos 99,
ouais.
Justement l'Odyssée de l'espace. Mm-hmm. Donc, écoute,
tout est accès là-dessus.
Ces gens-là avaient une vision des années 90 et 2000. Ouais.
La lancée du programme spatial de Kennedy a vraiment motivé grandement l'humanité, mais tu sais, au moins, je te dirais en Amérique du Nord, là, parce qu'ils ont juste voulu suivre qu'est-ce que les Russes avaient commencé à faire, là, mais...
Définitivement, c'est vrai que le début des années 70, fin des années 60, c'est là où on a connu l'ère spatiale aussi.
Ouais, ben, Kennedy a dit que il a fait son speech en 1960 en disant que d'ici les 10 prochaines années, il voulait avoir un homme sur la Lune.
Ce qui est arrivé en 69.
Ils ont réussi à le faire le 16 juillet 69, si je me trompe pas.
Oui, c'est exactement.
Ouais.
Mais une affaire, par exemple, qu'on se disait, je sais pas si on disait quand dans ces années-là, on pensait que les chars allaient voler. On dirait qu'aujourd'hui, c'est quand t'en achètes un que t'as l'impression de te faire voler.
Le parallèle est bon.
Trouvez-vous, hein? Sérieux?
C'est du trafic de genre.
Non, mais ce que je veux dire aussi, c'est que quand tu regardes assez souvent, à l'époque, il pouvait quand même avoir raison sur certains points. Il y a des choses qu'on nous montrait qui sont quand même aujourd'hui déjà là, tu sais, qu'on est en mesure d'apprécier. Je veux dire, j'écoutais des reportages où on nous présentait la cuisine du futur.
Ouais.
Puis on avait beaucoup d'accessoires qu'on trouve aujourd'hui dans nos cuisines, là. Donc c'est quand même intéressant de voir qu'il y avait quand même à quelque part, tu sais, je pourrais dire une bonne partie de
l'imaginaire était oui. présent, puis ça consistait à
oui, puis l'homme a concrétisé cet imaginaire-là aujourd'hui par ces inventions-là.
Mais regarde toutes les télévisions qu'on voyait dans les histoires de Robocop et tout ça, c'était à peu près, tu sais, ça avait même pas un quart de pouce d'épais. Tu regardes aujourd'hui les Samsung, les écrans plasma ou LED ou quoi que ce soit, ils ont ça, je pense, à peu près 3 mm d'épais. Ah, c'est ridicule. Là,
ben, d'ailleurs, là, ce soir, c'est sûr qu'on fait de la radio, donc on peut pas vous montrer ces extraits-là. Mais allez sur YouTube, fouillez un peu. Puis j'ai vu la première apparition de la télé LCD. C'est aux alentours des années 50, dans un vieux film en noir et blanc. Tu vois la personne qui passe devant un magasin. Donc, tu vois la vitrine et tu vois un téléviseur. Ben, c'est sûr que nous, on assume que c'est un téléviseur LCD, mais effectivement, ça ressemble d'un téléviseur LCD. Donc, c'est pour dire... Parce que certains pourront dire peut-être qu'il y a peut-être des avancées qui sont là depuis fort longtemps, mais c'est que je pense que la technologie nous permet peut-être de les développer aujourd'hui, parce que faut pas se le cacher, l'homme réinvente pas non plus toujours le genre.
T'sais, il l'améliore, par exemple.
Oui, il l'améliore. Mais je veux dire, il pouvait déjà penser au début de la télé, avoir un jour une télé beaucoup plus petite et beaucoup plus mince. Donc, je veux dire, c'était des devins, mais faut pas non plus exagérer dans le sens où je pense que c'est une chose normale, c'est la continuité.
Mais normal, mais c'est quand même des idées très brillantes. T'sais, je veux dire, il y a de la technologie, c'est bien beau de dire une image, une petite boîte, là, mais je veux dire, il y a quelqu'un qui t'a poussé le signal dedans pour te la rendre là, mon grand.
Oui, c'est sûr.
Tu sais, il y a de quoi en arrière là-dessus aussi.
Et c'est en regardant aussi les télés, justement, les téléséries comme ça, les petits bouts de films, qu'on voit des accessoires, des gadgets. Et pour ce qui est de Cosmos 99, pour moi, c'est quand même marquant comme série, parce que on aborde déjà certaines problématiques liées à l'eau, à la pollution, ouais. Parce que vous comprenez que là-dessus, on a joué longtemps sur la Lune, étant une terre d'accueil pour l'homme, après qu'on ait épuisé
les ressources sur Terre.
Et dans Cosmos 99, justement, on utilise quand même des fois des parallèles douteux. Là. Il y a la femme là,
qui change de forme, elle a des maillots, elle a des petits points sur le bord de l'œil.
Ouais.
Maillot qui se transformait. Là.
Oui, en c'est panthère, ça. En lave-vaisselle, et toutes sortes de choses.
Mais non, mais c'est vrai, je pense que c'est profond dans notre tu sais, dans notre subconscient, parce que on a tous grandi avec ça. Je sais pas si ça interpelle les gens quand je parle de Cosmos 99 ou en anglais de Space 99, mais il y a eu vraiment en plus plusieurs séries. Ça a débuté tout ça en 75, et à l'époque, avec les moyens techniques qu'ils avaient, ça donne un rendu quand même appréciable. Et je veux dire, on voyait à l'époque les premières navettes. C'est sûr qu'elles ne ressemblent pas aux navettes d'aujourd'hui, mais on avait des stations interlunaires, des choses comme ça, choses qu'on a maintenant là, qui gravitent autour de l'homme.
Interlunaire.
Toi, notre ami Duff, t'as fouillé.
Ah, j'ai fouillé, c'est incroyable.
Ça, c'est le fun, on pourrait commencer là-dessus.
Ouais.
T'as fouillé certaines inventions qui remontent, somme toute, à des années qui sont pas très vieilles, mais qui, pour nous, quand tu nous poses la question, c'est quasiment embêtant d'y répondre parce qu'on se dit, hey, c'est-tu là depuis les années 60, 70?
Je pourrais te dire justement qu'il y a 11, mettons, si on prend les 50 dernières années d'évolution au niveau de la technologie, si on parle de 11 gadgets...
Oui, parce que là, il faut s'entendre. Quand on parle de science-fiction, c'est très technologique, ça, là.
Ah non,
on s'entend
au niveau, exactement.
C'est normal, c'est la technologie. Là. La science-fiction adresse rarement le côté humanitaire chez l'homme.
Exact, c'est vraiment les technologies, tout ça, sauf que...
Avant que tu commences, j'ai quelqu'un qui voudrait peut-être intervenir. On va le prendre immédiatement. Oui, allô? Oui, allô?
Salut, comment ça va, les gars?
Salut!
Ça va bien, toi?
Ça va super bien. Hey, je vous entends mal. Excusez-moi, là.
Comment ça, tu nous entends mal?
Je ne sais pas trop, là.
Ben, voyons donc. Tu nous écoutes sur Internet?
Tu m'entends-tu bien?
Ben, moi, je t'entends bien, oui.
Ah, OK, c'est correct. Ça doit être mon cellulaire qui a décidé d'être menstrué.
Ah! Attention, Ron, c'est pas toi qui étais sur la corde raide avec ta blonde, justement?
Ah, il y a rien avec ça, lui.
Ben oui, mais là, tu sais, tu nous arrives...
C'est comme un chien, toi. Je voulais parler d'extraterrestre, puis toi, tu me reviens avec ma blonde sans terre.
Ah, mais ça peut être la même chose, ça, une femme et un extraterrestre.
ouais, ça, je suis d'accord avec toi, parce que... OK, on en parlera. Okay?
Oui,
mais faut pas dire que les extraterrestres,
Ron. Oui, parce que là, ça m'intéresse. En as-tu vu, Ron, des extraterrestres?
Non, j'en ai pas vu, là. Puis je suis pas un extraterrestre. Ce que je voulais dire, là, c'est que vous aviez raison tantôt que dans les années 60, 70, on a parlé beaucoup. Puis c'était un peu ma jeunesse, là, dans les années 70, là. Je voyais Cosmos 1999, ces affaires-là, Star Trek en reprise, bien souvent, surtout au Québec. Même à l'école, on nous disait quasiment que dans les années 2000, on aurait des chars qui volaient.
Ah, effectivement.
C'est vrai, c'était ça la science-fiction. John F. Kennedy nous a amenés sur la Lune. Ça a contribué beaucoup à ça, OK? À aller dans l'espace, à aller voir plus loin que où notre petit monde à nous autres, là, tu sais. Je le savais déjà à cet âge-là, quel âge que j'aurais à l'an 2000. OK? Je le savais, là.
Ben oui.
Ça, c'est vrai, on le disait
tout ça. J'avais hâte de voir ça. Je me souviens très bien que j'avais hâte de voir ça. Voir les gens. Quand j'ai vu, là, les films, qui nous amenaient dans l'espace, puis tout, moi, là, j'étais persuadé que c'était pour aller là. Ça, quand on est cul, là, on s'entend, là, tu sais. Quand je regarde aujourd'hui, on est-tu loin de ça?
Oui, on est loin là-dessus.
Enfin, parce que le gars de Virgin est en train de faire des vols qui sont faits pour le commun des mortels pour 200 000 $. Tu vas pouvoir aller... Non, mais on s'entend que commence. Là.
Ben,
c'est,
ça commence.
C'est comme le faux micro-ondes. Il coûtait pas 79
$. Tu peux t'acheter une maison ou tu te payes un voyage dans l'espace maintenant.
Oui, mais tu sais, celui qui a le moyen et qui veut le faire, c'est quand même faisable. On parle, je pense, c'est en 2012 qu'ils veulent,
ils veulent
commencer.
Ils veulent y vivre pour ça, effectivement.
Tu sais, c'est quelque chose, ça, là.
Oui, je suis d'accord, là. Mais... C'est-tu la science-fiction que vous avez lue dans les petits livres de comics, là?
Ben, moi, je pense qu'ils se sont trompés peut-être sur la rapidité que tout ça allait...
Ouais.
Non, mais c'est vrai.
Oui, c'est en plein ça, parce que c'est ça là, que je voulais emmener. C'est que moi, quand j'étais petit, là, 10 ans, 12 ans, à l'an 2000, là, ben, c'est ça, là.
Ouais. Ah oui, non, c'est sûr. Mais sur bien des choses, je pense que on a peut-être assumé que l'homme allait rapidement peut-être trouver des solutions. Justement, une affaire, oui, les autos volantes, mais une affaire qui m'a marqué, moi, c'est toujours la téléportation.
Hein? Oui, effectivement.
Parce que ça a commencé surtout dans Star Trek.
La mouche.
Buck Rogers, je sais pas s'il en faisait de la téléportation.
Non. Non.
C'est juste dans Star Trek, ça. Hein?
Mais la mouche était très populaire.
Pas mal là.
25e siècle. Hein?
Ouais.
Ouais, c'est ça. Attends une minute, je mélangeais ça, puis je sais pas pour Buck Rogers.
Puis la machine.
Non, je pense pas qu'il y en a.
Mais on peut-tu dire que, justement, l'ancêtre de la téléportation, c'est peut-être la machine à voyager dans le temps?
J'entends pas, Tess Demi.
Je sais pas s'il y a un lien. Non, mais je serais pas prêt à faire le lien entre les deux comme ça, parce que c'est deux choses vraiment bien distinctes.
Non, c'est sûr que c'est deux applications différentes, là, mais je pense que les machines à voyager dans le temps, ça date de quoi, là? Léonard de Vinci en avait inventé, je sais pas, là. Sûrement que si on fouille, peut-être que les Égyptiens en avaient inventé des histoires comme ça et des concepts, là, peut-être hallucinants. Les Mayas, je sais pas, là.
Mais tout ce qui est téléportation, tout ce qui est télépod, j'en reviens avec le film La Mouche, mais tu sais, je veux dire, ça a été mis en valeur à ces années-là, c'est certain, mais c'est sûr que ça, c'est l'avancée c'est de démoléculiser les choses, c'est ça qui est, mais ça va en venir, je suis convaincu, puis c'est pas des utopiques, je pense.
Il y a des, au niveau de, premièrement, la téléportation dans Star Trek, ça a été inventé uniquement à cause du fait que ça coûtait moins cher à faire que de bâtir des sets. Fait qu'ils ont dit, au lieu de bâtir plein d'affaires, puis ils coupaient sur le budget, fait qu'à la place, ils ont dit, bon, on va inventer la téléportation, comme ça, on va juste faire semblant qu'on est rendu là. Ça coûte moins cher puis on sauve du temps dans l'émission. Mais, il y a eu un livre qui avait été fait, qui s'appelle The Science of Star Trek, qui, dedans, il racontait un paquet d'affaires par rapport à ça, puis les opinions sont partagées au niveau de certaines communautés. Il y a des gens qui vont dire que oui, c'est possible, mais c'est pas possible actuellement, mais ils voient pas pourquoi ça ne serait pas impossible. Tu sais. Puis d'ailleurs, tu as amené le sujet de la téléportation, mais savais-tu qu'il y a eu des études qui ont été faites là-dessus? Des vraies études sérieuses, là?
Ben oui, c'est toi, Duff, qui m'a semble
que... Einstein, Bose, Condensed, là, entre autres. Il y a pas de quoi là-dessus, là. Je sais pas si tu connais ça, Tess Demi. Ouais. Le Einstein, Bose, Condensed.
Bose, B-O-W-L-E-S, hein?
Je pourrais pas te dire exactement, là, mais qu'effectivement, je pense que ça traitait de ça un peu. Ouais. Étant capable de, avec, c'est comme une genre de structure, de stuff qu'ils mettent sur un élément, puis sont capables comme de le déplacer. Puis ils travaillent là-dessus, en tout cas, sérieusement. Faudrait aller voir sur Internet, là, mais...
Mais tu sais, on parle de ça, mais c'est la US Air Force qui ont ils ont fait une étude sur le sujet en 2004. Ça avait coûté 25 000 piastres à faire. Ils ont juste mis des gens pour voir, ils ont étudié la faisabilité de la téléportation. Puis, à la fin de l'étude, ils ont recommandé un programme de 7,5 millions pour pouvoir commencer à travailler là-dessus.
T'es-tu sérieux, ouais?
Ouais, c'était en 2004. L'étude est disponible gratuitement sur le net, les résultats de la recherche. Faites juste faire US Air Force Teleportation Study dans Google. Puis, le premier lien, c'est ça, c'est la physique derrière la téléportation.
Donc, ça se peut-tu qu'il ait fait une même étude pour faire tomber Haïti en dessous de l'eau en même temps,
Run. C'est pas ça.
Non, mais c'est parce qu'il y a des rumeurs qui coulent sur le net, tu sais, que ça serait les États-Unis qui auraient
un
tremblement de terre en Haïti, tu sais, juste pour...
Je touche plus à ça, ces choses-là, moi.
Moi non plus, là. Ouais. Mais tu sais, si tu parles de ça, ils font des tests pour ci puis tout ça. Ou toi, à l'âge que t'es rendu, tu pensais que tu serais à l'âge que t'es rendu quand t'étais kid?
Comment tu te voyais finalement la projection que t'avais de toi à l'âge que t'es rendu, mais quand t'étais pas à l'âge que t'as finalement? C'est quoi ton nom? Non, mais je la comprends, moi, Ron, sa question.
Ben ouais, moi aussi.
Mais c'est parce qu'il y a un délai, on dirait. Là.
OK, c'est parce que je me demandais si tu me parlais à moi, Ron.
Ben, ouais, je pense que oui, là.
OK, c'est certain, excuse-moi. En fait, je me souviens pas vraiment de ça.
Tu as jamais fait de projection quand tu étais jeune pour voir ce que tu voyais dans tes petits livres de comics? Tu n'as jamais checké toi, ce que tu voyais quand tu avais genre 35, 40, 45 ans, quand tu avais 10 ans?
Je me souviens pas.
Mais toi, Ron, c'était quoi ta projection, puisque tu rouvres la porte?
J'entends plus personne.
Ben, moi, je me souviens pas de ça, Ron, personnellement.
Ah non?
Ron, il attend plus, il se fait téléporter.
Quand t'étais jeune, toi.
Oui, mais je me souviens pas de particulièrement de ça. Je dis pas que j'en ai pas fait, je fais juste dire que je me souviens pas. Pareil.
Tu nous entends-tu, Ron?
Es-tu téléporté, Ron?
T'es où, Ron?
Il est rendu dans la cinquième dimension.
Hey Ron, on t'aime, nous autres, t'es où?
Non, je pense qu'on s'excuse pour Ron parce que c'est vrai que ça rentre mal dans la console. Désolé. C'est pas évident. Mais je fais un lien aussi, les boys. Puis là, depuis tantôt, je gratte sur Internet. J'essaie de trouver la fameuse date puis l'année quand il y avait un journaliste là qui avait lancé sur une onde radio une fausse alerte.
La guerre des mondes.
La guerre des mondes.
Ouais, c'est pas...
Ouais. Ouais,
les années 60, ça?
Les années 40, je
pense. Ah non, c'est plus vieux que ça.
Non, les années 30.
Ah, c'est
années 30.
C'est très vieux.
Puis je pense, je suis pas certain, c'était pas 1927. Attends un peu, on va le trouver tout de suite.
Ouais, ça fait extrêmement longtemps de ça, mais c'est pas grave, là. Je le cherchais depuis tantôt parce que il y a eu cette fascination-là aussi chez l'homme par rapport aux extraterrestres, par rapport à toute cette science-fiction-là qui est liée justement au transport. Tu sais, l'homme qui s'en va hyper loin dans l'espace, l'homme qui peut se téléporter, l'homme qui peut voyager dans le temps, justement les véhicules qui sautent, là, des choses
inconstitutionnelles.
Non, je sais pas, je vais la prendre, ça pas long, la ligne, ils sont là, les gars me font les boys. Je peux-tu finir ma phrase? Laissez-moi finir la phrase. C'est juste un téléphone. À chaque fois que le téléphone sonne ici, on dirait qu'il y a une bombe. Les en ligne, je vais le mettre.
Faire des signes des fois.
Là, ouais, ça va, là, mais j'allais dans la face, puis là, il me fait signe comme s'il serait perdu sur l'océan.
T'es que kayak.
Oui, allô, à qui on parle, là? Oui, allô?
Oui, salut.
Salut.
Écoute, tu parlais de technologie pis ça pis de futur là. Moi je suis tombé sur un magazine, ça fait déjà une couple d'années que je lis ça, c'est Science et Vie.
Ouais.
C'est assez fréquent ce qu'ils mettent là-dedans, c'est toutes les découvertes technologiques. Et puis pour ce qui est de la téléportation, des choses comme ça, là, ils ont déjà réussi à déplacer, je pense qu'il y a un atome sur 30 cm.
Je pense que c'est un photon, je pense qu'il avait fait. Je sais pas
si ça. Ouais, un photon, c'est ça.
Un élément de lumière.
Il y a plein de choses comme ça dans ce livre-là. C'est assez capoté de voir où ils sont rendus là, dans le.
Mais j'ai une question.
La technologie et tout ça, là.
Tu y crois-tu à ça? Tu penses-tu qu'on peut en arriver là, toi?
Ben, écoute, j'ai des grosses interrogations. Là. C'est peut-être à petite échelle. Là. Regarde, ils ont même déjà dit qu'ils ont réussi à recréer un trou noir de 1 micron de gros par, je sais pas combien de millisecondes. Là. Écoute, peut-être à petite échelle de même, on sera peut-être pas capable un jour de réussir à être, avoir assez d'énergie et d'être assez équipé pour faire ces choses-là.
Puis, tu prendrais-tu le guess?
La médecine, puis ça, là, c'est assez capoté aussi, là.
Mais
beau, là.
Tu prendrais...
Je recommande ça au monde, là, d'Intabagie, vendre ça, Science et Vie, là. Moi, je suis pas un nerd, mais je vais te dire, quand je lis ça, c'est assez passionnant, là.
Donc, la science-fiction, ça t'attire. C'est quelque chose qui t'éveille, qui t'émerveille, là.
Ben, je pense comme un peu tout le monde, là, tout le monde, quand on était jeune, on a tout vu Back to the Future, des films comme ça, ça nous a tout fait rêver un peu.
Puis aujourd'hui,
Il y en a beaucoup qui ont peur de ça, par exemple.
Oui, mais aujourd'hui, est-ce que tu sens qu'on continue encore à alimenter ça, ce côté-là, tu sais, qui est merveilleux en même temps, puis parce que, il me semble, je vois plus ça, là, je veux pas, tu sais, bâcher sur ce qui se fait aujourd'hui, mais il me semble que quand on était petit kid, on en avait des choses comme ça, puis on pouvait rêver à ça. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, ça existe encore, puis c'est encore promu?
Ouais, ben là, il y a les environnementalistes aussi, qui nous font peur avec le futur. Fait qu'il y en a beaucoup qui pensent que le futur, c'est que la Terre va être sèche. Là.
Ouais.
Mais non, je pense que c'est encore possible.
Surtout verte, la Terre, en tout cas. Ils sont très green.
Moi, j'ai toujours entendu dire aussi que la journée qui serait capable de prendre de l'eau salée, faire de l'eau douce avec, qui sauverait la planète, mais je me trompe pas, il y a un porte-avions ici là, qui est en train de faire ça, là, il fait 378
ouais, mais ça, c'est ça se fait depuis des années, ça, cette technologie-là existe depuis longtemps. À Dubaï, c'est ce qu'ils font depuis longtemps. Là.
Ben, okay. C'est ça, mais ils informent pas assez le monde, c'est une nouvelle découverte, des choses okay. Comme ça. Là,
mais je vais vous poser une question à tout le monde.
Jusqu'à là, à peu près un mois, je m'interrogeais si ça s'était fait, là, puis je me suis informé sur l'Internet. L'Internet aussi, ça l'aide beaucoup, hein?
Oui, mais
tant que t'as des bonnes sources, effectivement, oui.
Mais je vais vous poser une question à tout le monde. Est-ce que pour vous, c'est encore envisageable d'investir un peu là-dedans, justement, dans la recherche, t'sais, tout ce qui est un peu, pas, je veux dire, science-fiction, puis commencer à essayer de développer là avec les argent des contribuables une machine à voyager dans le temps, mais seriez-vous prêt à ce que il y a encore des chercheurs puis justement des programmes qui commanditent là des jeunes, tu sais, puis je sais que ça existe dans les universités là, on fait des concours de ci puis des développements d'ingénierie où on a des concours d'excellence, mais êtes-vous prêt là tout le monde à investir un peu là-dedans là, je dis pas 50% du budget là, mais un petit pourcentage là.
Personnellement, j'ai pas de problème avec ça parce que je veux pas qu'on recule.
Ouais, je pense que c'est important. Mais hey, merci de ton appel.
Merci, puis en passant, juste une petite chose. Oui. Souvent, c'est en essayant de découvrir quelque chose que tu découvres qu'on vraiment une autre affaire différente,
oui.
Que ça fait avancer aussi.
Oui, oui, effectivement. Ça, c'est une excellente observation. Hey, merci.
Merci, bye.
Salut. Bye bye. Mais c'est vrai que moi, je trouve qu'on perd ce côté-là un peu inventif. Tu sais, aujourd'hui, il me semble, on essaie de tout s'expliquer. On a l'Internet, justement. Tu sais, on a une question, on va sur Internet. On n'est plus nécessairement motivé à, tu sais, à aller plus loin, puis tu sais, à sortir l'imaginaire un peu, qui, oui, a un côté enfantin, ouais, parce que, tu sais, je pense qu'il faut rêver aussi. Faut parfois être farfelu dans ses approches. Tu sais, parce que si t'es pas fou un peu à travers ça, tu vas être trop rigide, tu vas être trop conformiste.
Mais faut effectivement être imaginatif, oui, mais quand tu regardes ça, Smart, la TV, la radio, les voyages dans l'espace, je veux dire, à quelque part, à un moment donné, c'est normal que plus ça avance, je pense que les grosses idées, veux pas, une fois que t'inventes la radio, c'est quoi, tu veux qu'on te la branche dans le front, tu sais, je veux dire, tu comprends-tu, à un moment donné, la technologie, tu vas la développer, mais dans le fond, le gros, en partie, est fait quand même, là. T'sais, là, c'est plus au niveau de l'espace, au niveau temporel, au niveau... Je pense que les prochaines arrivées, justement, d'avoir des grosses affaires comme ça, c'est dans ce style-là.
J'ai l'impression, Duff, qu'il y a encore des gens qui travaillent sur ces
avancées-là. Mais c'est ça, mais ces gens-là, tu les vois pas, Smart. Le gars qui a inventé la radio, tu te promenais pas dans la rue et disais, moi, je travaille sur une radio, là. À un moment donné, la radio a sorti, là.
Faut dire que Marconi est mort, là, mais bon.
Non, mais tu comprends ce que je veux dire, pareil, tu sais. Ouais. C'est le gars, il s'annonce pas partout, lui, là.
Ben, c'est super bon, ça. Hey, on a un autre auditeur qui veut...
C'est super bon. Dans ce temps-là, là, c'est parce qu'il y a quelqu'un puis il veut passer à autre chose.
Non.
Mais c'était super beau programme, on passe à l'autre.
Non, mais on a quelqu'un qui veut intervenir. J'aime ça quand on prend des appels comme ça. Oui, allô?
Ouais, je suis revenu de la cinquième dimension.
Ron! Salut, Ron!
Ouais, c'est ça. Je suis allé faire un dos, puis sais-tu quoi? C'est pas mieux que ça,
Il dit, c'est juste que j'ai le bras dans le front maintenant, mais il dit, bon, il dit, c'est un trouble de molécules, mais...
non, ben, gars, je sais pas ce qui s'est passé, là. Là, je vous écoutais sur le net, là, puis ça semble être à peu près la même affaire, hein. C'est pas ce que c'est à supposé d'être.
Le futur, tu veux dire?
Ben, tu sais, mettons, Back to the Future, là.
Ouais.
Tout le monde a trippé. On s'entend-tu, là, que le premier, quand il est sorti, là, tout le monde a trippé là-dessus, là.
Là, en fait, on l'écoute tout le temps quand tu zappes pis qu'il joue, tu l'écoutes, tu sais.
Ah oh, oui, all the way. Tu peux pas.
Non, c'est un classique, là.
Ouais, c'est ça. On s'entend que si on le réécoute 20 ans plus tard.
C'est aussi bon.
Ben, c'est pour le côté divertissant, là, personnellement, là.
Non.
Hey, je vais aller voir Avatar, là.
Mais c'est vrai.
Non, mais sérieux, parce que, puis je vais en venir à ça, parce que moi, je suis convaincu d'une chose. C'est ceux qui font des films de science-fiction qui ont de l'impact, font évoluer la science dans ce sens-là.
Oui, ils contribuent
Ils sont peut-être imaginatifs, ils sont peut-être des weirdos, mais, à quatre temps, il y a quelqu'un qui se dit, pourquoi pas?
C'est vrai.
D'accord avec ça, les gars?
Complètement, Rob.
Oui, puis hey, c'est pas facile faire ce qu'ils font, là. Quand tu dis, je fais un film de science-fiction, là, puis je m'éclate, là, hey, faut que tu sortes des histoires que t'as jamais vu sur pellicule, que là, toi, t'inventes le genre.
Ouais.
Puis effectivement, Ron, c'est important ce que tu dis là. C'est par des films comme Avatar, qui connaît un excellent succès, que on va bâtir cet éveil-là chez une graine de petites communautés de gens qui vont plus tard être peut-être ceux qui vont inventer des histoires puis des bébelles qu'on va utiliser au sein de notre quotidien.
Peut-être que dans quelques années, Ron, tu vas faire partie d'un avatar.
Exact. Ouais, parce que souvenez-vous de tous les films de science. Faites un peu de recherche, OK, là, puis checkez, là. La science a souvent progressé dans le sens de films de science-fiction.
Ouais.
Ben, des idées. C'est
C'est-à-dire que quelqu'un a dit que les chars voleraient. Ben là, j'ai donné ça comme exemple tantôt. On n'en a pas encore. Sauf qu'on a des... Mais Tintin est allé sur la Lune.
Oui. Il est revenu aussi.
C'est de la science-fiction, ça, à l'époque. On s'entend-tu?
Mais gars, Jules Verne, là, le voyage sur la Lune, voyage au fond des mers...
Et voilà!
Il y a juste, je pense, le voyage au centre de la Terre. Je pense que c'est pas réalisé dans tout ce qu'il a fait, comme les livres.
Ça se encore là, ça dépend. Il y a des places qui sont construites à des milles sous le roc.
Ouais, non, c'est un fait. T'as raison. C'est peut-être pas jusqu'au magma, là, comme il semble dire dans les livres, là, mais effectivement.
Bon, fait que... là, on entend parler beaucoup du film Avatar. Là. Moi, j'ai toujours été un peu intéressé, un peu moyennement beaucoup, dépendamment des films de science-fiction. Ça fait longtemps, très longtemps que j'ai pas été voir un film de science-fiction. Ça doit voir toutes sortes de films là au cinéma là, mais un film de science-fiction pur qui nous dit révolutionnaire. Ben quand j'étais jeune, j'étais allé voir les Star Wars, j'étais allé voir tout qu'est-ce qui était supposément révolutionnaire.
Puis ça marche.
Là, on dirait que là c'est le film.
Oui,
bon,
mais
ben, gars, je vais aller le voir, puis je donnerai mon opinion là-dessus à mes amis, à mes connaissances, à ma famille puis tout. Mais il paraît que bon ben regarde, je vais aller le voir, puis je vais voir où est-ce qu'on en est rendu dans notre évolution humaine par rapport à ça. Parce que tout le temps, de tous les temps, ça a été ça. Quand quelqu'un pensait à quelque chose qui n'existait pas, qui inventait quelque chose, on a toujours essayé, en tant qu'être humain, de se rapprocher de ça. Moi, je vois ça de même, là. Je peux être dans le champ, là. Ben, je pense que oui, à quelque part. Tu sais, les chars invincibles, Volvo ont comme projet de mettre un véhicule routier invincible. C'est-à-dire que peu importe l'accident que tu vas avoir, tu vas sortir vivant de là.
Puis il roulera pas.
Puis ça, c'est... Non, mais c'est dans les... Sud-Web, là, pour Volvo, pour les expositions automobiles, puis tout, là, je pense qu'en 2012 qu'ils vont le faire, ils disent qu'ils vont mettre un véhicule automobile invincible. C'est-à-dire, si t'es à l'intérieur, mais gars, c'est une évolution, ça.
Ah, c'est ça.
Niveau automobile.
Mais Ron, je peux te poser une question, Ron, puis peut-être pour les gens qui nous écoutent, qui veulent appeler aussi, c'est peut-être quelque chose. Si je te demande à toi, Ron, puis on pourra faire voir avec les gens ici en studio puis les auditeurs, mais la plus grande invention que tu trouves qu'il y a eu dans les, je sais pas, dans les 50 dernières années, c'est quoi pour toi, puis qu'est-ce qu'elle t'a apporté de bénéfique ou de négatif, par exemple?
Je pense que la plus grande
avancée technologique, là, tu sais, dans le sens large.
Je te dirais, écoute, là, c'est une question que tu me poses. Il y en a beaucoup. Tu sais, je pourrais dire la télévision, parce que moi, j'étais tout petit, puis j'ai vu la télévision. C'est difficile de répondre à ça, à part la vision vers l'univers.
L'ouverture d'esprit.
Oui, c'est... Ouais, mais là, à ta peu, là. Mélange pas les affaires, toi. OK, là?
Tu sais que j'aime ça, Ron.
Là, l'ouverture d'esprit, c'est une chose, OK? Je peux être ouvert dans mon petit village puis pas checker à l'extérieur ce qui se passe, OK?
Ouais.
Mais moi, c'est plus ce qui se passe au niveau technologie. Technologie, là, vraiment, là, qui arrive, puis ce qui est à notre disposition présentement, j'ai de la misère.
Mais ça serait la TV. Dans le fond, tu nous résumes que pour toi, à l'heure actuelle, ça serait peut-être la télévision qui aurait été l'élément le plus marquant pour toi.
Ouais. Parce qu'à partir de là, ça l'a...
explosé.
Ça a fait un grand bout, là. Tu sais, parce que la télévision devait se propager un peu partout, un peu comme un virus, là. OK, on s'entend sur le web, là, il y en
un
a...
Un peu comme la H1N1, là.
La TV, il fallait que tout le monde l'aille. OK? Comme le téléphone a été avant, ben bon, eux autres, là, il a fallu que ben, tout le monde a la télévision, OK? Puis à partir de là, ben, c'était une télé... Nous autres, là, ici au Québec, là, la TV, on l'a depuis les années 40, OK? Mais il y a des pays qui viennent de recevoir la TV, là. On s'entend-tu? Puis il y a des pays, puis il y a des civilisations qui ne l'auront jamais, là. Ouais, conscient de ça, là?
J'ai peut-être juste un petit jeu, justement, que je veux... je vais profiter, Ron, si tu es là aussi, aux gens qui nous écoutent. Si on vous parle, OK, dans les 50 dernières années, si on représente, c'est-à-dire les avancées technologiques en gadgets, OK? Il y a eu 11 gadgets qui aujourd'hui peuvent paraître dépassés parfois ou même de l'Antiquité, mais qui vous témoignent un peu, on va partir des années 50. Si on parle des années 50, ce qui a marqué vraiment cette période-là, c'est l'appareil photo 35 mm. C'est vraiment là qu'il y a eu, paf, l'apogée, là, c'est là que ça a sorti.
Ben c'est sûr. Puis ça, aujourd'hui, tu vois que on utilise l'appareil photo numérique, mais on oublie qu'avant, il y avait une 35 mm. Exact. Il a fallu qu'encore que quelqu'un qui l'invente.
Oui, mais c'est ça, mais ça se développe.
Parce que les premiers appareils photo, ça faisait dur, là, avec la poudre, puis la patente, puis la
flash. Ouais. Écoute, les années 60, on parle effectivement de la télévision personnelle, donc pas seulement les écrans. Là, chacun pouvait avoir sa télévision.
Pas juste la grosse TV dans le meuble en bois qui là.
Qui était dans le magasin central que tout le monde allait s'asseoir dehors quand il faisait beau.
Il y en avait une par grande famille.
Exact. Non. Les années 60 ont été l'arrivée effectivement des télévisions personnelles.
La télé en cuisine, dans la chambre, puis dans le salon.
Si on prend les années 60 aussi, on découvre les vinyles, les tourne-disques. Ça a été vraiment l'apogée à cette période-là aussi. Les années 70, ça a de la niaiseux, mais on commence à rentrer les disquettes 5 pouces et quart. C'est là qu'on commence à stocker de l'information sur des médias.
Les médias de stockage.
Ouais. Ça a commencé dans les années 70.
On est loin de la clé USB ou de la carte mémoire là, de 8 gigs.
Exactement, parce que là, on parle... Ouais, non, c'était comment, d'ailleurs, un 5 pouces et quart? Ça logeait quoi?
Oh, c'était une centaine de cas.
Imagine-toi, 100 cas, pas-tu. Les années 70 aussi, les premiers ordinateurs personnels qui ont vraiment commencé à ce moment-là. D'ailleurs, tantôt, on va faire une petite historique des consoles de jeux vidéo avec les différentes années aussi que ça a sorti.
Mais les premiers ordinateurs personnels, on dit personnels parce que les ordinateurs ils existaient dans les années 50 et 60. Ouais. Et personnel, c'est vraiment
petit,
de
taille régulière.
C'est ça, puis on l'a apporté dans la maison des citoyens.
Exact,
puis
c'était une maison grosse comme une maison, c'était un ordinateur à l'époque. C'est ça.
Ben, le ENIAC, c'est ça, là, en
46. Là. Ben,
ouais,
c'est ça,
non, c'est ça, ça a commencé plus tôt que ça, mais si on prend les années...
Le ENIAC, le premier ordinateur, c'est 1946.
46?
Ouais, c'est un projet militaire. C'est pas en 46, c'est avant ça, parce qu'ils voulaient l'utiliser pour la recherche sur pour la recherche nucléaire.
Oui, puis aujourd'hui, il existe une petite application sur Internet qui porte le même nom, puis ça te donne à peu près la puissance que ça pouvait avoir à l'époque, cet ordinateur-là.
Oui.
Fait que tu vois que je pense qu'avec un traitement de texte, c'était encore
plus équipé. Les années 80, les boys, les calculatrices personnelles.
Oh, elle, hein, la première.
Oui, machine carrée.
Moi, ma première calculatrice, c'était une...
Casio,
une Sharp ou l'autre, là.
Texas Instruments,
imagine.
Tu payais ça cher à l'époque, là.
Parce que t'en avais des scientifiques.
Hey, 30-40 piastres, là.
T'avais la calculatrice régulière puis la calculatrice scientifique. Qui venait avec les autres fonctions puis tout ça. Les années fin 70, début 80, les premiers baladeurs.
Oh!
On s'entend que c'était à cassette.
Walkman.
Hein, le Walkman, qui était assez gros, d'ailleurs.
Sony, qui ont toujours été une compagnie que j'associe à l'innovation.
Ben,
hein.
D'ailleurs, tantôt, je vais te sortir différents produits de l'évolution de Sony, effectivement.
Mais Sony, on peut-tu leur donner ça? Parce qu'on arrête de dire que les Japonais copient. Mais je m'excuse, là. Sony, là. Bon, peut-être qu'ils, ils vont chercher des brevets, puis peut-être qu'ils vont faire des copies de petites firmes qui développent, là, peut-être des produits, puis les autres
sont précurseurs.
Ils les amènent à grande échelle, mais hey, le Walkman, là, je m'excuse, là.
Ouais, qui avait pas un Walkman, justement? Tu sais, Walkman, c'était Sony, justement, Walkman, c'est ça?
Ben oui, c'est leur Mac.
C'était quand même leur Mac.
Ils sont forts là-dessus, Sony. Par exemple, quand ils développent un produit, c'est un peu comme Mac.
Exact.
Ben, Mac, Apple, ils font toujours un trademark avec ça.
Puis, si tu regardes aussi, bon, les années 80, on utilisait les premières machines à écrire électroniques. Hey, ça a été un méchant changement dans les bureaux, là.
Ça devait faire pas mal de moins de bruit.
C'est pas mal moins étonnant, effectivement.
Que le tac-tac-tac.
Les années 90, les premiers téléphones portables, ils étaient gros. Vous vous souvenez des gros avec les grosses antennes, tu mettais dans le char, tu t'es...
Ouais, portable, c'est un grand mot. Fallait que ce soit dans la console du char.
Ton Alper, là, le ban de l'Alper, c'était le cellulaire que tu mettais dessus, là.
C'est ça.
C'était pas
quelqu'un qui était là. Tu condamnais un ban dans le char.
Les années 90, les premiers PC portables aussi, les portatifs.
Ouais, encore là, c'était pesant, un portable.
Exactement. Puis là, les années 2000, ben plus ça va, c'est les e-books, hein, puis tout ça qu'on voit là qui prennent l'emphase. Bien, c'est la grosse technologie.
Et cette semaine,
qui s'en vient.
Là, on a connu l'apogée chez Apple avec le iPad.
Ouais.
Mais je vais vous poser une question. Est-ce que c'est pour le mieux? Est-ce que c'est vrai qu'aujourd'hui, avec un iPhone, un iPad, un Facebook, tu sais, toutes ces avancées-là, est-ce que c'est vrai qu'on est plus évolué, qu'on est plus innovateur? Est-ce que c'est vrai?
Mais ça rend la vie plus belle. Il y a des côtés positifs. Plus évolué, on le sera jamais nécessairement pour autant, sauf qu'à quelque part...
Je pense que ça facilite beaucoup.
Ah oui?
Ouais, mais tu sais, comparé au micro-ondes qui a fait son arrivée, par rapport à la télé, ouais, par rapport au téléphone. Là, non, mais tu comprends, là. Ouais, c'est vraiment utile, là. C'est pas un iPhone. Non, l'iPhone, que tu peux avoir une petite application.
C'est du loisir, l'iPhone, puis tout ça, dans un sens. Mais à quelque part...
J'ai l'impression que le volet technologique aujourd'hui, c'est beaucoup gizmo, tu sais, geek, ces affaires-là. Là.
On était pas censé vivre dans une société de loisirs qui avait pas dit dans les années 70?
Oui, mais est-ce qu'on continue encore les avancées technologiques? Du côté de la médecine, il y en a, oui, je le sais. Ouais. Maintenant, on a des cœurs artificiels, toutes sortes de choses. Hey, on va faire des implants, deuil.
Moi, les gars, moi, je pense que ça va faire un bout, ça, les gizmos pis ces affaires-là, là. C'est parce qu'on est dedans la technologie, là. L'évolution rapide de la technologie, là. Après ça, on va apprendre plus à s'en servir intelligemment, là. C'est tout simplement ça.
Tout nouveau,
là.
Tout beau.
Mais elle est là, puis nos enfants. Pas, nous autres, on s'amuse avec ça, on apprend à la découvrir. Nos enfants vont l'acquérir, et puis ils vont s'en servir pour aller plus loin avec.
Ouais, c'est un putsch, c'est sûr. Ça, ça nous donne une poussée dans le dos, effectivement.
Mais tu sais, j'avais l'impression qu'avant, chaque avancée technologique, c'était waouh. Puis tu sais, c'était vraiment, tu sentais une révolution. Le mot exact, c'est une révolution. Aujourd'hui, je sens que oui, tout est plus miniature, tout est plus rapide. Mais tu sais, je sens pas que, tu sais, je veux dire, entre un iPhone, ben en fait, c'est un ordinateur de poche là que tu sais, tu peux faire à peu près tout ce que tu fais avec un gros ordinateur. C'est rendu là. Mais je veux dire, c'est pas une avancée. C'est pas technologiquement, c'est fort, on avance, c'est plus petit, mais c'est pas. Tu sais, c'est pas quelque chose de nouveau. L'Internet, tant qu'à moi, c'est la dernière révolution qu'on a connue.
Ouais.
Mais j'en vois plus, là, vraiment, depuis ce temps-là.
Mais plus...
Puis ça m'inquiète.
Ben, ça t'inquiète, Smart. Plus la génération évolue, plus les années passent. Veux pas, je pense pas qu'à un moment donné, tu vas avoir de quoi qui, oui, va te jeter sur le cul, mais tu le verras pas venir, là. Tu sais, je veux dire, mais les chars, une fois que t'as inventé le char et... tu sais, comprends-tu, tu vas l'améliorer,
ouais, mais comme elle dit, on pourrait le faire voler, le char, peut-être que ça éviterait d'entretenir mais on n'arrête pas se plaindre qu'on met nos budgets dans les routes. Si on arrête des autos qui sont capables de...
Imagines-tu le prix du gaz?
Mais ils sont capables...
Imagines-tu le prix du gaz à ce moment-là?
Oui, mais mettons...
Je suis bien d'accord avec toi.
Ben oui, voyons, plus besoin d'entretenir nos routes. Tu t'en fous s'il y a un nid de poule. Tu le sens pas.
Non, mais il va y avoir des postes d'air.
Ramenez-nous ça sur la terre battue, on s'en calisse.
Imagine-tu, mec, tu roules que t'ailles des espèces de photoradars dans les airs, dans le partout?
D'off?
Oui!
Allez, on laisse Tess Demi parler, là.
Excusez, t'as un bon point, D'off. Effectivement, ça coûte très cher de gaz, mais je pense que t'as mis le doigt sur un bobo. C'est notre industrie pétrolière qui nous empêche de faire une évolution dans ce sens-là.
Effectivement.
Parce que, regarde, c'est pas impossible de changer la façon dont on conduit puis dont on se déplace. Alors, regarde les trains magnétiques.
Ouais, c'est vrai.
Il existe depuis plus longtemps, là. C'est 2003, je pense, qu'au Japon, ils l'ont fait.
Ben oui.
C'est pas un peu avant. Puis, c'est du support magnétique. C'est de la lévitation magnétique. C'est
ben
ça,
oui.
C'est ça, le processus. Faites
le test avec deux aimants quand vous les inversez. Vous voyez ce que ça fait? Ouais. Imagine-toi à grande échelle.
Asti, c'est en 84, je pense, au total, que ça a commencé, cette affaire-là, le premier train magnétique. Puis, la technologie, elle existe. Elle existe, c'est ça l'affaire. Si elle existe, puis que ça, tu sais là, nos environnementalistes là qui sont prêts à aller se pitcher dans le feu là pour sauver un arbre là,
ouais.
Ok, pourquoi ils font pas ça en place, qui s'arrange pour détruire pour empêcher le travail des pétrolières, qui eux veulent pas qu'on avance qu'on ait des avancées comme ça.
Exact.
Nous on prend ça en place, puis fuck les nids de poules, fuck les problèmes, on s'en fout. On va s'en foutre des nids de poules quand on va se déplacer sur des affaires de même, puis oublie ça, là. Le transfert d'argent, il va se faire.
Mais là,
ces gens-là, ils vont perdre de l'argent dans le pétrole.
Ouais, puis les camionneurs qui nous écoutent, eux autres, là, qui vont devoir, justement...
Avoir des vannes volantes.
Des vannes volantes, imagine-toi.
Elle run avec une vanne volante, elle bras sorti, là, tu sais, qui s'en va, avec un steering, puis elle bras à côté dans la fenêtre, puis dit...
Ah, fuck, le steering, il n'y en a même pas.
Mais plus de steering, tu penses.
T'as même pas besoin.
Un joystick.
C'est comme un train. Tu laisses les choses aller, puis ça y va tout seul.
Oui, oui. Merci, c'est ça. Ça fait, c'est ça, je l'ai trouvé, là. C'est en 84. C'est ça, je disais. En 84, à Birmingham, en Angleterre, qu'ils l'ont fait. Fait que ça fait 26 ans que ça existe, cette technologie-là.
Mais tu sais, quand ils parlent des nouvelles technologies, mettons les chars à l'hydrogène, quand t'es assis sur une tank d'hydrogène, tu peux savoir la chienne qu'elle saute, ta tank?
Non. J'aurais pas plus de problèmes avec ça qu'une tank à gaz régulière.
Ben ouais.
Pourquoi est-ce que j'aurais plus peur de ça quand la sécurité va être en cours de toute façon?
Une fuite de gaz, à un moment donné, là, moi, je crisse le feu après ça, là, puis j'ai pas peur de masser dans le char, là.
Mais l'hydrogène?
Le gaz qui sort pas, tu sais, c'est les gaz volatiles qui sortent pas de la tank à gaz qui sort.
Non, mais c'est comme n'importe quoi d'autre. La technologie va aussi être construite dans la sécurité.
Overlap, les gars.
Ouais.
Sur le chat, il y a François qui fait mention aussi de la nanotechnologie.
Oui.
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 Il y en a un paquet de nano, des fois.
Non, mais c'est vrai que on a tout ça à la portée de main. Et puis, comme tu dis, Tasdomi 84, pourquoi, je veux dire, j'enlève rien encore là au iPhone, puis je veux pas cracher sur l'iPhone à soir, mais tous les milliards qu'on a mis à développer des plateformes, des gadgets comme ça, pourquoi qu'on les met pas sur des utilités? C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Qui pourrait vraiment faire avancer l'homme puis régler des problèmes. As-tu pensé si nos gouvernements ont plus des milliards à mettre dans nos autoroutes puis qui participent à l'investissement massif pour une nouvelle technologie? On a Hydro-Québec au Québec qui est capable de développer des moteurs électriques. On est capable de bâtir peut-être des nouveaux systèmes un système de rail. Je sais pas, là. Je dis n'importe quoi, là. Puis en même temps, j'essaie de trouver une solution en 5 minutes, là, technologique. Mais ce que je veux dire, c'est il faut continuer à investir dans ce domaine-là, puis il faut avoir des utilités technologiques qui vont aider l'homme justement à régler des problèmes. Puis nos environnementalistes, comme tu dis, le test d'homie, là, qui se mettent donc sur ces dossiers-là à la place d'essayer de récupérer des pécadilles, puis là, faut ramasser nos ci puis nos ça. Il y a tellement des gros défis technologiques qui pourraient être 100 fois plus bénéfiques.
Je peux-tu y mettre un commentaire?
Oui, non. Vas-y.
On n'a pas le droit de virer sur un feu rouge, imagines-tu faire voler les chars? Imagines-tu faire voler les chars?
Non, mais...
On n'est pas capable de tourner sur une lumière rouge. Ils nous prennent pour des ticounes.
Ça, c'est au Québec, Duff.
Ben, je sais que c'est au Québec, mais on vit toujours bien là pour le moment.
Parce qu'ailleurs dans le monde, le feu rouge, il tombe dessus.
Je le sais. Je me suis même fait pas en Suède, mais en Suisse, parce que j'ai viré sur une, puis je pensais qu'on avait le droit, mais on n'avait pas le droit, de quoi.
Ouais, mais comme n'importe quelle technologie démocratisée puis envoyée à tout le monde, c'est certain qu'il va y avoir
des imbéciles,
des contrôles, ouais. Des façons de la gérer, etc., tu sais. Je veux dire, aujourd'hui, là, je sais pas c'est qui, je sais pas quelle compagnie qui ont sorti l'affaire qui te permet de te stationner sans que t'aies besoin de toucher à ton volant, tu sais.
Volvo l'a fait, Mercedes l'a fait.
Bon, OK. Fait que, tu sais, ça, c'est une chose parmi tant d'autres. Mais regarde qu'est-ce que ça implique. Du contrôle, du motion sensor, du contrôle de distance, de l'analyse, tu sais, je veux dire...
Je vais revenir un peu sur la nanotechnologie, parce que j'ai le texte devant moi, là, sur Wikipédia. Oui. Puis la nanotechnologie, là, OK, c'est un mot pour la nanotech, là, en fait. Puis ça utilise, là, ça étudie, en fait, le contrôle par rapport à, écoute, là, on est au niveau atomique, au niveau moléculaire... Oui. À des échelles, là, vraiment, là, c'est sûr qu'on appelle ça justement la nanotechnologie parce que c'est des très petites choses.
C'est des millionièmes de millimètres, là.
Mais on est capable. Écoutez, là, l'être humain est basé sur des choses très de base, hein. Un chimiste va vous le dire, quelqu'un qui est très scientifique, là, au niveau de l'être humain en fait de constitution, on va vous dire qu'on est toutes des molécules, là, hein.
Oui.
Puis je veux dire, tu sais, tantôt on parlait de la téléportation, c'est pas fou, mais c'est sûr que je serais pas le premier à le tester, puis mettons qu'à la ferme, je suis chef de candidat, j'irais pas empocher 1500 piastres pour l'essayer.
Non, c'est embêtant, hein. C'est...
Hey, les gars, on va faire une petite pause, parce que là, il faut plugger.
Juste avant, peut-être, tandis qu'on
est. Ouais, mais on va revenir.
Moteur à eau, non?
Ah,
c'est pas normal, on n'a pas réussi à trouver un moteur à eau en 2010.
Ben, c'est dans quel film qu'on voyait un moteur pis qu'il mettait toutes sortes de... C'est dans Retour à
le futur, mais...
Back to the Future, ça.
Mais il n'y a pas un mythe qui dit qu'il y a quelqu'un qui a inventé ça, puis justement, tu sais, l'histoire qu'on entend qui s'est faite descendre.
Il y a certains navires qui fonctionnent comme hydrojet, là. Ça fonctionne avec une turbine qui pompe l'eau pis qui, les bateaux avancent sur l'eau comme ça. Mais ça, remarque, là. Ça serait-tu pomper l'air, puis...
Parce que là, on la pompe,
on
des fois, l'air,
on
nous autres.
On a une turbine qui ferait avancer les voitures en pompant l'air. Je sais pas.
Ou quelqu'un qui te pose en arrière, finalement. Mais non, on va être dans ta pause.
on va faire une pause, les gars, puis on va être de retour de l'autre côté, parce que là, on a deux commanditaires, faut pas les oublier dans tout ça. Fait qu'on se retrouve de l'autre côté, on est sur un spécial scientifique, puis on se laisse aller à soir, hein, vraiment. Les idées farfelues, il y en a pas. Puis je veux dire, si ça peut stimuler des personnes... Ben, autant.
Pis c'est, s'il y en a qui ont des idées, mettons, moi, j'aimerais ça de telle affaire, faudrait que ça sorte, cette affaire-là, ben, vous nous appelez puis vous nous en faites part. On va commenter ça, boys.
OK.
Les filles aussi.
Ouais. On s'en retrouve de l'autre côté. Vous êtes à Radio Choc sur les ondes de XM 172.
Cool.
Radio Choc and Friends.
C'est quoi, donc, l'affaire?
Ben, c'est des animateurs qui parlent avec des amis. Ben, deux gars qui parlent avec des chums. Bon, ben, là, si tu saisis pas, écoute donc le show. Ça va être bien plus simple.
Radio Choc and Friends.
Pour une maison de qualité, faites affaire avec Construction McKinley. Que ce soit pour une maison standard ou de prestige, venez rencontrer notre équipe jeune et dynamique. Gagnante de plusieurs prix Nobilis, nos maisons sont toutes couvertes par la garantie de la PCHQ et nous sommes certifiés Nouveau Climat Sélec. Plan sur mesure, projet clé en main ou à travaux partagés, nous sommes là pour vous supporter. Informez-vous auprès de nos représentants, nous avons plusieurs développements dans le Québec métro. Consultez notre site internet au www.constructionmckinley.com ou composez le 418-844-3334 pour plus d'informations.
Radio Choc and Friends. De retour après la pause dans 3, 4, 5 minutes.
Qu'est-ce que t'as dit?
Ben, le temps que les animateurs aillent à la toilette, se lavent les mains et prennent une petite gorgée. Ben quoi, comme toi, ils ont bien le droit de se reposer un peu.
Radio Choc and Friends.
I stumble through the wreckage, rusted from the rain. There's nothing left to salvage, no one left to blame. Among the broken mirrors, I don't look the same. I'm rusted from the rain. I'm rusted from the rain.
I don't feel anything.
Bienvenue à bord, mon grand.
Boucle ta ceinture. Tu te prépares à traverser une zone de turbulence. Avec toute la gang de Radio Choc.
Zone de turbulence ou avec le contexte de ce soir, c'est peut-être une zone de turbulence planétaire.
Planétaire ou intravirtuelle.
Hey, on est de retour après cette pause. On va revenir un peu sur... Parce que tantôt, on a flairé Wars of the Worlds, puis... pas of the Worlds, mais of the Worlds. Et
je pense
que...
mondes.
Ouais, puis moi, je pense que c'est parti de là. Puis tantôt, t'as nommé, on cherchait la date. Je pense que t'as mis la main dessus.
Ouais, c'est 1938. C'est le soir... c'était un épisode d'Halloween qui était présenté le 30 octobre 1938.
C'est Orson Welles, hein, je pense?
C'est Orson Welles, effectivement, parce qu'il y avait H.G. Wells qui avait fait le qui avait écrit le livre, mais ça a été dirigé et narraté par Orson Welles. Puis, en fait... ça a été rendu public bien des années plus tard, mais ça, c'était une étude. C'était pour voir si c'était possible de faire une manipulation du psyché social.
Ouais, c'est ça, c'était.
Ouais. Puis, ça a vraiment bien fonctionné, là.
Ah ouais, parce que il a fallu qu'ils reviennent, parce que là, c'était.
Ouais, ça a rendu à panique.
Oh, ouais, c'était un chaos, là. C'était un chaos total.
Mais c'est quoi, ils disaient que les extraterrestres arrivaient?
Ben, il avait fait une fausse alerte, là, puis c'était genre, on est investi par les extraterrestres là.
Ça
puis...
c'était un roman qui était présenté comme étant comme si c'était un présentateur à la radio qui annonçait au monde que les Martiens venaient de débarquer puis qu'ils commençaient à attaquer puis là ben il y avait des puis c'était un show qui était contenu. En plus ils mettaient pas de pause commerciale. Fait que les gens ils capotaient là. Fait que ça a créé une espèce de panique. Puis à un moment donné, il a fallu qu'ils reviennent et qu'ils disent « OK, c'est beau, c'est... » À la fin, là, quand ils ont terminé, ils ont dit « C'était une histoire et blablabla. Bla, » bla. Mais c'était ça. Ça le 30 octobre 1938, c'est ça je cherchais tantôt.
Ça fait penser un peu au show réalité, mais d'époque.
Ben, c'était, ils appellent ça des radio-feuilletons là, à l'époque. On faisait beaucoup de ça. Hey, en passant, Duff, le verre, hein, tu me l'as rempli, hein?
Ouais, mais je trouvais que c'était soir de fête, là.
Il veut qu'on se neille.
Tabarnouche! Hey, ben non, mais prends si les auditeurs verraient le verre que tu me remplis de vin, c'est quasiment le, tu sais, le gros format chez McDonald's, là.
Ouais, mais
là, c'est pas de la liqueur aux fraises, c'est du vin.
C'est de la science-fiction. Un jour, t'auras des verres de vin comme ça.
Ben, je me suis dit, tonight is the night.
OK. Là, Duff, là, pour revenir à tes histoires d'invention.
Oui.
T'as dans le temps, puis on parlait tantôt, on faisait référence à Sony.
Oui, exact.
T'as dans le temps, puis tu vas nous le poser sous forme de quiz.
Oui.
Les inventions de justement de Sony.
Ben dans les plus populaires ou ceux qui ont marqué le plus, je te dirais.
Ben je te dis, ils sont pas mal toutes moins populaires.
Ouais, mais tu sais, il y en a différentes. Mais mettons que je te parle par exemple de la Sony Trinitron.
Oui.
Vous connaissez cette télévision, mesdames et messieurs.
Oui. Et soit dit en passant, tu sais qu'est-ce que ça veut dire la Sony Trinitron?
Trinitron.
Non. Mais tu connais
pas.
Trois
tubes, ouais, mais c'est trois couleurs.
Oui, c'est ça, trois tubes.
Ouais, c'est trois tubes de couleurs. Ouais. Le rouge, le vert et non, le rouge, le bleu et le bleu, blanc, rouge.
Technologiquement, tu connais rien.
Non, mais c'est quoi? C'est le vert, le rouge et le bleu?
Oui.
Bon.
Non.
Oui. Ben oui, c'est
oui,
ça.
Oui, rouge, vert, bleu.
Bon.
Oui, c'est ça. Oui. T'avais dit encore le blanc.
Ben non, tu vois bien, je te niaise.
OK, ah ouais, continue.
En quelle année?
70.
Oh, t'es pas loin. 68.
Hey, on a peut-être quelqu'un qui va joindre au quiz. Oui, allô, à qui on parle?
Oui, bonjour. Moi, je m'appelle Réjean.
Salut, Réjean.
Bon, moi, je voulais vous faire un commentaire sur la technologie.
Oui, vas-y.
Quand on regarde l'évolution humaine depuis bien des siècles, la technologie, l'arrivée de la technologie, l'évolution humaine s'est faite quand même à ces niveaux-là, assez lentement. Puis, vous êtes-vous posé la question, qu'est-ce qui a fait que, dans les dernières années, depuis les débuts 1900, mettons, on a un poussée technologique qui est très rapide comparativement au restant de l'évolution humaine. C'est l'arrivée de l'électricité, en réalité, qui a tout amené ça.
C'est sûr que l'arrivée de l'électricité, effectivement, ça a fait bouger les choses, ça c'est bien évident, là.
Oui, c'est ça, c'est rendu exponentiel.
Quand on pense à tout ce que ça a changé dans l'humanité, l'avènement des électroménagers, l'avènement des communications, toutes ces affaires-là, ça découle tout de la découverte de l'électricité.
D'ailleurs, au Québec, la nationalisation de l'électricité, c'est en quelle année déjà que ça s'est fait, ça?
C'était Parizeau qui avait parti ça.
C'était pas l'évêque qui avait fait ça? Mais ça, c'est...
La nationalisation de l'électricité, c'est René Lévesque.
C'est René Lévesque, hein? Mais c'est en quelle année, ça, déjà? Parce que honnêtement, c'est... Et je sais pas si c'était sur Internet, SDMI, mais...
Ouais, je cherche en même temps. En tout cas, je sais qu'Hydro-Québec a été fondé le 14 avril 1944.
Non, mais t'as raison.
C'est le mec qui a nationalisé.
Effectivement, comme le dit l'auditeur, c'est effectivement, ça a été, garde, le début est tout explosé quand ça s'est arrivé, la nationalisation de l'électricité, ça c'est sûr.
Oui, et puis la découverte de l'électricité en elle-même, en fait, que toutes les autres découvertes
ont suivi et découlaient
de ça.
Oui.
Et si on pense aux communications, si on pense à tout ce qui a changé la vie de l'humain.
Ben, je pourrais rajouter à ça. Demain matin, si on perd l'électricité, puis on l'a vu au Québec, on a perdu l'électricité dans le temps de la crise du verglas. On sait plus quoi faire au Québec, surtout avec le climat qu'on a.
Ah oui. On deviendrait complètement... tout serait... vraiment, ça serait le blackout total.
Ben, moi, je l'ai perdu le courant. Une journée, pas de frigidaire. Puis là, j'étais en train de tout perdre ce que j'avais dans le fridge. Tu sais, je veux dire, au Québec, on n'est plus...
Puis plus de caveau, là.
J'irais dans le
caveau,
monde.
Là.
Non, c'est ça. Puis dans le monde, en général, tu sais, tout fonctionne à l'électricité. On a même... Moi, en plus, je suis rendu à l'ère de l'Internet. Toutes mes radios, c'est des radios Internet. J'ai même plus de radio à transistor. Puis aujourd'hui, on a appris de toute façon qu'il ne restera plus de poste AM.
Non.
Fait que, comment est-ce qu'on ferait demain matin si on n'aurait plus d'électricité? Je pense que c'est un bon point, ça. Tu sais, l'être humain aussi est dépendant de ces technologies-là.
Ouais. Et si on pense aux autres formes d'énergie, on s'en sert beaucoup pour produire de l'électricité. Pensez à l'énergie nucléaire, pensez à plein d'énergie dont on sert parce que l'énergie primaire qui est la plus utile est l'électricité.
Oui, mais même aujourd'hui, tu sais...
En fait, c'est converti en électricité.
Oui, mais vous... Je vais prendre un exemple, vous avez parlé de la télé. Tu sais, il y a un temps que c'était les oreilles de lapin, mais aujourd'hui, là, les oreilles de lapin, tout ça, là, ça fonctionnera plus. Là. Je pense que c'est l'année prochaine là, que...
Aux États-Unis, c'est déjà tout numérique. Il n'y a plus rien de...
Bon, ben...
Oui, t'as raison. Je pense que c'est par la loi. C'est nous autres aussi, on suit qu'est-ce qui va se passer.
Ouais.
Je pense l'année prochaine aussi.
Donc, ça veut dire que demain matin, les oreilles de lapin, c'est fini. Fait que même si tu trouves une source d'énergie qui pour alimenter ton téléviseur, si t'as pas ton antenne satellite ou ton appareil Vidéotron qui fonctionne, t'es dans marbre.
C'est ça, en plein
ça. Eh bien, merci de votre commentaire.
Parfait.
Mais, je l'ai coupé un peu raide, désolé. Mais c'est vrai. Hey, je tiens à dire, puis là, vous voyez, je pense que c'est le bon soir pour avoir le prétexte, mais côté technologique, ce soir, ça boite un petit peu sur Internet, ça coupe, mais c'est pas de notre côté, là, fait que c'est sûrement le fournisseur là, d'accès, mais je dirais qu'on est un peu victime aussi de notre succès pour ce soir, puis là, je veux pas nous lancer des fleurs, mais
il y a
beaucoup de connexions, fait que... merci de votre patience, ceux qui écoutent actuellement, là, mais je peux pas faire autre chose, j'ai tout vérifié, là, puis c'est vraiment pas de notre côté.
Le vidéo bêta, les boys?
Oui, vidéo bêta,
quelle année qu'on a découvert ça, le vidéo bêta?
Bêta, je sais pas.
Parce qu'on parle de Sony, on s'entend, là, c'est pour ça.
J'allais dire 1970 aussi, mais...
75!
OK.
Le Walkman, tantôt on parlait des années 70, le Walkman de Sony, c'est en quelle année?
80.
Ça, c'est 80-81, là.
79, tu es pas loin, par exemple. Le premier lecteur CD?
Ça a suivi de près, je pense.
Je sais pas, j'aurais tendance à dire 86, mais...
84, moi, je dis.
82?
Ah, c'est bon.
82?
Mais, premier, mais là, on s'entend qu'on n'avait pas un à la maison, tout le monde.
Non, mais c'est quand même là que ça a été inventé, pareil. Les floppy disks, les ordinateurs avec les petites disquettes 3 pouces et demi?
Ah là, on est rendu à plus petite, parce que tantôt, t'as dit les années 60.
Les 5 et 1 quart, tantôt, c'était pour les 5 et 1 quart, mais les floppy disks 3,5 pouces?
Quand est-ce que ça a été inventé?
Oui, c'est Apple, en fait, qui a sorti le premier, là.
J'aurais tendance à dire 90. Peut-être un peu avant 90.
Juste te dire, Apple l'ont sorti ça en 82, Sony l'ont sorti en 83. Je continue ou on a un auditeur?
Ben, on a un autre auditeur qui voudrait intervenir. Oui, allô?
Oui, salut, comment ça va?
Salut, ça va?
Comme un vieux nul.
c'est grognon, ça?
Oui, monsieur, c'est grognon. T'es dans. Écoute, t'es-tu dans le fond de la cave? Je t'entends comme si t'étais dans le fond de la cave.
Ben, c'est à côté de toi, mon grognon.
Et presque, ouais, mais ça.
Attends un peu, on va le téléporter, tu vas le voir, dans 2 secondes, il va apparaître.
Coucou, c'est moi!
Ah oui, aïe, excuse-moi. Ouais, mais pour ton histoire, là, de télévision numérique, là, aux États-Unis, il va y avoir des convertisseurs pour être capable de pogner le numérique avec une télévision ordinaire. Tu n'auras pas besoin de le changer. Fait que c'est demain que ça va se passer.
Oui, mais encore là, il faut l'avoir, le convertisseur, puis il faut avoir la télé, parce que...
Oui, ben il y a eu des programmes aux États-Unis pour ça. Là.
Ah ouais?
Ben oui.
Ils vont rendre ça accessible à monsieur, madame, tout le monde?
Pardon?
Ils vont rendre ça accessible à tout le monde?
Ben oui, autant que possible. Hein.
Parce que, je veux dire, il y en a encore aujourd'hui qui travaillent avec des vieilles télés, là, qui ont même pas des entrées SVHS. Là, je parle très techno en disant ça, mais ah, c'est vrai pareil, là. Tu sais, moi, je me souviens avoir donné un DVD à ma mère, puis oups, t'arrives en arrière de la télé.
Pas d'entrée, là.
Oh, pas d'entrée, là. Parce qu'à l'époque, les télés, il y avait pas d'entrée.
Il y en avait, ouais, mais c'est ça, il y avait une
sortie. Il y avait une entrée pour mettre les oreilles de lapin, puis il y avait la fiche pour la brancher dans le prise de courant.
Ouais, mais tu pouvais, mes oreilles de lapin, mais tu peux avec, t'avais un convertisseur, encore là, tu peux avoir un convertisseur. Pour être capable de collecter.
Mais Grognon, on a oublié, puis là, tout le monde à soir a oublié une invention qui est superbe, puis en plus, nous autres, on devrait y avoir pensé.
La radio.
Oui. La radio satellite.
Oui.
Ah oui, la radio satellite, je connais pas ça, moi.
Non.
C'est ce que t'écoutes en ce moment.
Non, mais pensez-y, là. Aujourd'hui, vous écoutez une radio, pour ceux qui nous écoutent sur la radio satellite, qui vous est diffusée à partir...
De l'espace.
L'espace, puis c'est pas une antenne, puis c'est pas un fouet, puis c'est pas des oreilles de lapin, là.
Non, c'est loin de là. Hey. Tu parles d'ondes satellites.
Ben oui, coast to coast. Ça nous permet, pas dans notre sous-sol, mais dans le beau studio à Jeff, avec notre gros verre de vin à soir, de vous...
Il est pas méchant, en plus.
De vous parler à partir de la Californie jusqu'à la Floride, puis en passant par les territoires du Nord-Ouest.
Et par Val-Bélair aussi, là.
N'importe quel endroit où tu as un récepteur satellite. Un récepteur XM ou Sirius.
Là où les ondes se rendent.
Ben oui.
Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras.
Ben non, ben où les ondes se rendent. En général, ils se rendent tous, là, à moins d'être cru d'une vague, là, épouvantable, là, comme ça à trois, là, dans le BC, là. T'as des endroits que tu, puis encore là.
Ouais, ben là, c'est parce que les montagnes sont aussi hautes que les nuages, là.
Oh oui. Je sais pas si j'ai été, mais c'est beau.
Mais là, t'es-tu sur la route, Grognon?
Pardon?
T'es-tu sur la route, Grognon, en ce moment, toi?
Ben là, oui, mais là, je roule pas, là, c'est attendu, je t'aurais pas appelé.
Donc, t'es dans quel coin?
T'es à Toronto.
OK, t'es à Toronto, OK.
Ouais, avec les Anglais, là.
Les maudits, hein?
Les maudits.
Les maudits méchants.
Eh hey, ben, merci de ton appel, Grognon.
Maudit méchant, ben là, regarde, ma compagnie est ontarienne.
Salut, bye.
On n'a rien contre eux autres, on va aller faire belle farce.
Hey, là, on était rendu au bêta.
Oui, mais les bêta, les floppy disques.
Duff, excuse-moi, mais quand t'as parlé de l'invention des disques, là, des floppy disques, là.
Oui.
T'as juste parlé des 5 pouces et quart puis des 3 pouces et demi.
Oui.
Mais il y a eu plus gros que ça au début.
Il y avait le 8 pouces avant.
Ben oui, il y avait 8 pouces. Mais tu pouvais le plier, mettre dans ta poche, lui.
Moi, c'est ça que j'ai eu, là, quand j'ai commencé, là.
Ben oui, Duff, il en a sauté un peu.
Oui, il en a sauté, ça, c'est en 71.
Hein. Ouais.
Ouais, mais comme je te dis, là, j'ai une feuille, là. Quand même, là, vous savez que j'étais un peu limité.
Il manque le 8 pouces.
Ça ne doit pas être Sony.
Non, c'est 8 pouces.
Ça ne doit pas être Sony, c'est pour ça que j'ai fait le Sony, là.
Non, c'est IBM.
Ah, vois-tu, c'est pour ça.
OK. Ouais, c'est... Parce que tout est biaisé dans ton appareil.
Non, mais
ils m'ont donné une TV, là.
À la défense de Duff, tantôt, c'est ce que j'ai dit, Tess Demi. On est vraiment du côté de Sony, là. C'est vraiment les inventions de Sony. On continue, Duff?
Mais certainement, si je te parle d'une petite TV portatif que tu peux traîner partout. On parle de mini TV, je te parle pas de
que tu peux brancher
là.
Dans un
genre gros, quasiment comme un iPhone, là, tu sais.
Ouais,
je comprends le genre, là. C'était en quelle année, ça?
84.
C'était en 92. Oh. 92, mais si je te parle, vous souvenez-vous les dates?
Oui, le DAT, oui.
Le DAT, oui. C'est parce qu'il y a eu la cassette normale, après, il y a eu la 8 pistes.
Oui.
C'est digital audio tape.
Exactement.
Ouais.
C'est en quelle année, ça? Ouf. Mais ça a pas pogné ben.
Non, moi, je n'ai acheté un, je l'ai revendu 2 semaines après.
Ça a vraiment pas pogné, ça. Non, mais il y a des inventions comme ça. Ben, dans le temps, avec UVHF, c'est Sony Beta, là.
C'est comme les vidéodisques.
Oui, ben oui, mais la HD TTV, puis HD DVD, non, mais HD DVD, puis le Blu-ray, c'est ça.
Ouais, ça, mais ça...
Il y a des formats qui ont
ça,
pas
resté. Mais ça, c'est encore pire, là. Les vidéodisques de Sony, t'achetais ça, c'était gros comme un...
Comme un vinyle.
Puis, je me souviens, là, de ça, c'était comme exactement.
Hey, c'était gros, là, tu mettais ça, c'était un vinyle, mais c'était un CD, autrement dit. Hey,
ça a pas levé.
Non, mais, tout, hein. Mais je veux dire, à l'époque, ils essayaient. C'est quelle année, Duff?
87, si je te parle du... Là, on va aller loin, parce que des fois, on dirait que ça a l'air bien proche, mais on se pose la question, puis ça peut être un peu plus loin. Si je te dis le Sony PlayStation 1...
Ooh.
Le PS1.
Ouais.
Dur à dire, ça. Je l'entends picosser en arrière, lui, il s'en va sur Wikipédia. Il sort la tête.
94. Si je te dis le PlayStation 2...
Hey, 94, sais-tu ce que ça veut dire, ça, là? Ça fait 16 ans.
Ouais.
Du côté de Sony, pour la première plateforme. Ouais. Mais moi, ce que j'aurais voulu d'offre, puis que t'as pas... C'est l'Atari.
J'ai tout ça.
Ah oui, t'as l'Atari.
I've got everything hey, for you, my
dear. Parce que l'Atari, ça m'a fait chier parce que toi, t'en avais. Et puis là, à ce... non, mais là, attends, écoutez-moi tout le monde. Là, je veux pas un mot autour de la table. je vais ouvrir une grande parenthèse. Parce que notre ami Duff, des fois, il fait bien pitié avec les femmes et tout. Mais notre ami Duff, il vient d'une famille pas aisée, mais tu sais, dans le sens où, technologiquement parlant, il était gâté. Moi, le premier vidéo où c'est que je l'ai vu, chez Duff.
Puis son gros JVC,
tu sais, puis là, c'est un JVC, puis c'est effectivement le plus d'un triangle, puis tu mettais la cassette par le dessus. La première console de jeu, où c'est que je l'ai vu? Chez Duff, un beau petit Atari 2600, puis pas une cassette, il y en avait des cassettes. Qu'est-ce que j'ai vu chez vous? Ah, toi, c'est sûr, toutes les affaires à gaz, ça, t'es avais. Mais technologiquement parlant, t'es avais toutes ces histoires-là. Hein?
On était gâtés. Honnêtement, on a une belle
jeunesse. Même, écoute, je me souviens, la première ampli vocale que j'ai vue, c'était toi qui l'avais avec le ressort qui zouignait, ton père qui disait. Non, mais t'étais avancé technologiquement, t'avais plein de systèmes de son, tout ça, t'avais ça chez vous.
Ouais, là. Mais mon père était musicien aussi.
T'étais dans le futur.
Ben oui, écoute, moi, là, j'étais tellement pauvre que quand je voulais m'enregistrer sur une cassette, j'allais chez Duff. T'as pas toujours intelligent, puis d'ailleurs, on pourrait peut-être ramener ça un moment donné. Parce que là, c'est là que vous verriez de où a parti peut-être le concept de Radio Shock and Friends.
Et voilà les petits jokes, hein?
Ouais, c'était ordinaire. Hey, hein. Mais tout ça pour dire que Duff, technologiquement parlant, t'étais branché, puis t'avais tout ça. Puis moi, ça faisait chier, parce que c'était pas accessible vraiment à l'époque. Le premier vidéo, là,
non,
ton père, là, il avait payé ça combien?
Je pense que c'était 800$.
Hey, ça devait être dommage. Hey, ouais. Les abonnements chez le Club Cadillo, ça coûtait à peu près 50$ la carte de membre. Je me demande si ça coûtait pas 10$ louer un film, tu sais.
Puis j'étais étudiant d'aller louer, puis j'avais ma carte.
Hey, puis ceux qui avaient une caméra vidéo à Noël, là, ouais. À l'époque, là, hey, ouais. C'était-tu des pleins? C'était quoi une caméra vidéo?
Ouais.
C'était 2000$ avec la mallette, puis le trépied, puis la batterie de spare.
Mais on n'a jamais été prétentieux avec rien, par exemple.
Non, vous n'étiez pas prétentieux.
Jamais,
mais
jamais,
il y en avait
jamais,
de
jamais,
ça
jamais,
chez
jamais.
Vous, c'est ce que je veux
ouais,
dire.
On a été gâtés, mais mes parents m'ont toujours dit une chose, par exemple. Ils ont dit, gardez les enfants, vous avez ça, profitez-en, c'est pas tout le monde qui en a, comptez-vous chanceux. Puis on n'a jamais, mais jamais fait chez personne.
Mais j'en ferme la parenthèse. Non, je l'ai dit.
Mais c'est vrai, t'as raison, c'est vrai. C'est vrai qu'on a été gâtés, oui, j'avoue. Mais non, on peut peut-être continuer un peu. Donc, PlayStation 2, on l'a-tu dit l'année? PlayStation 2?
Non.
2000?
Ah, OK.
PlayStation 3?
2004-2005? 2006? 2006,
ouais. Tu veux-tu que je tombe dans l'Atari et toutes ces histoires-là?
Ouais,
un peu les consoles de jeux vidéo?
Atari, oui.
Si je vous parle de la société Nintendo, là honnêtement, je suis tombé sur le cul. Ben, en quelle année? Là, on s'entend, OK? Le nom, non, mais je veux juste clarifier. Le nom Nintendo, on l'associe beaucoup aux jeux vidéo. Mais si je te parle de la fondation de la société Nintendo,
mais encore là,
a été créé quand?
Avant de faire des consoles, ils faisaient des jeux. Puis avant de faire des jeux, j'imagine qu'ils étaient éditeurs au niveau peut-être de films.
Okay.
Ou de
les jeux. Années 60?
Non, là, on change de siècle, là.
Oh, Nintendo, on change de siècle.
Oui, je te parle de le Nintendo, OK, ils faisaient des cartes à jouer pour la famille impériale. Ça s'appelait Nintendo.
Oh, wow.
OK, des cartes à jouer, on parle de 1889.
Ici, Monac, là, tu me jettes à terre.
Ben, honnêtement, j'étais...
Donc, Super Mario Bros,
non, mais ça part de
ses
loin.
Ancêtres.
Oui, il y a ses ancêtres, c'est ça, faut le voir comme ça. Là. On s'entend, c'était des cartes à jouer, là. Tu sais, je veux dire, c'était des jeux, je sais pas ce qu'il y avait, ces jeux de cartes à jouer, là, mais il y avait des jeux de cartes à jouer pour la famille impériale. Qui dit famille impériale, on parle pas de 2010, là. On n'en connaît pas bien la famille impériale, OK? Les jeux Sega, la fondation, en quelle année?
50-60 peut-être?
51.
Ah, tu vois?
Ouais. Si je vous dis le premier jeu vidéo qui a été inventé en passant, soit dit en passant, dans un laboratoire de recherche atomique.
Ben,
le premier jeu vidéo, en quelle année?
Est-ce qu'on parle de Pong, là?
Non, c'est pas Pong, c'est un petit peu plus tard.
C'est Ping.
Non, c'est avant Pong.
59.
58. Oh. Wow! Savez-vous c'est quoi qui est arrivé? C'est Monsieur Willie Hongingbottom, c'est le nom là. C'est un physicien de Brookhaven National Laboratories, en fait c'est un centre de recherche nucléaire gouvernemental, qui lui a créé le premier jeu vidéo dans l'histoire sur son ordinateur analogique qui était couplé avec un oscilloscope. C'est un jeu de tennis en fait, c'est Tennis
ah,
for
oui,
Two là.
Oui, oui, oui.
Puis ça en réalité, c'est l'ordinateur servait en fait à faire lui le vrai ordinateur servait à calculer la trajectoire des missiles nucléaires.
Ouais.
Mais lui se servait de ça, c'était une ligne, OK? Il y avait une boule qui rebondissait dessus. C'était le premier jeu qui a été inventé, OK? Lui, il se servait de ça parce que il disait c'était juste pour ses physiciens, vous allez les amuser dans le temps des pauses.
Dans mes souvenirs, c'est le premier jeu que j'ai eu, moi, que j'avais acheté chez Radio Shack.
Oui, c'était un grand bâton rond avec une affaire qui tournait dessus, là.
Ouais.
C'est le premier jeu que j'ai essayé, moi.
Ouais,
avec.
Ouais. Le jeu de tennis, imagine-toi, ça prenait de l'imagination parce qu'il n'y avait rien de
mais
tennis là-dedans.
Imagine-toi que le gars qui a fait ça, OK, le gars que je t'ai nommé tantôt, il a pas fait breveter ça parce que lui, le gars, il s'est dit, ben ouais, donc, il croyait pas à ça, il trouvait ça stupide, lui. Fait que c'est, il a fait ça, puis c'était plus pour ses amis qui étaient physiciens, puis c'est, des impose, ils jouaient à ça. Mais imagine-tu le brevet, la pièce qu'il aurait pu faire avec ça? C'est vrai ce que je te dis là,
mais,
là.
Mais tu vois, c'est parti de nulle part.
Absolument. Absolument. Non, non, c'est, ça part de rien, c'est tout le temps. Puis, en passant, c'est en 1966 et 67 que Ralph Baer, il considère comme étant le génie, là. C'est lui qui a réalisé il a trouvé la manière de rendre une télévision comme un jeu vidéo. En 1967, il crée les premiers jeux qui sont jouables à la TV en tant que tel. Il y a des jeux de voitures.
Ah, mais hey, encore là, tu me rappelles le souvenir. Tu parles-tu des jeux que, tu sais, justement, les compagnies de câble distribution t'offraient, là, t'appelais avec ton téléphone, puis tu jouais avec le téléphone?
Mais ça, c'est beaucoup après, parce que ça, tu parles du genre de vidéo.
Ah, mais ça, non, bien avant ça, fin des années 70.
Ouais.
T'avais ça ici dans la région de Québec, Montréal, puis sûrement à travers le monde.
Il y avait un jeu d'échecs.
Tesdomi, c'est sûr qu'il se souvient de ça. Tu jouais avec le téléphone, là. Pis...
Ah, ouais, peut-être que je me vois un peu, là, mais c'est loin un peu. Mais ça, c'est en 66-67. Ça, c'est vraiment avant ça, c'est l'ancêtre. La première console de salon, on s'entend quand on dit salon, ça peut être cuisine, puis
la Coleco, c'est pas-tu la Coleco?
Non.
L'Atari. Là, t'embarques dans l'Atari. Là.
Non, ben je vous parle en fait de l'Odyssée, qui était commercialisée en 1972 par Magnavox. C'est la toute première console, puis c'est le même gars qui a créé celui de tantôt que je te disais en 66, 67, qui a fait le jeu. Là. Ça, c'est vraiment la première console de jeu. La création d'Atari, elle est aussi, par contre, en 1972, la compagnie Atari.
Ouais.
Et quel était le nom qu'il voulait donner à la compagnie Atari avant?
Iretta?
Non. Ça fait dur en sacrement. Là. Ça n'aurait pas été Winner, par exemple. Ziggy. S-Y-Z-Y-G-Y. Ziggy.
Ah ouais.
Ça, ça a été effectivement le nom qui avait été déposé, mais finalement...
Ça me fait penser, ça, quand je vois des épiceries, là, les genres de saucisses, hot dog, Ziggy.
Ouais, non, mais t'as le chorizo, je suis pas capable de gérer ça. commentaire inutile.
Inutile, tout à fait.
Inutile.
On va enlever ça, d'ailleurs, de l'émission. Le mec, qu'on fasse le podcast, on
enlève ça. Ta pogne que tu me parlais, Tess Denis, c'était en 1972, ta pogne aussi.
Ta pogne
ouais, mais ça, c'était une version qui a été introduite, qui était... diffusé dans les bars puis les arcades puis les places les endroits qui étaient dans les amusements publics.
Exact.
Mais 175 qui ont mis ça dans les qui ont été capables de le mettre sur les consoles pour les distribuer.
Mais bon. Tu te souviens-tu des gros aussi quand vous avez, tu sais ça qu'on avait, mon père avait un casse-croûte puis qu'on avait des jeux vidéo, c'est
bon, ouais, ça pas le nerf. Les arcades là.
Les arcades, on avait des arcades, des machines à boules, tout ça dans notre dans notre restaurant. Puis c'était tu te souviens-tu, vous souvenez-vous du nom qui était marqué, le nom chinois qui était marqué ces machines, justement les grosses
Simonac.
Si je vous dis Konami.
Oui, c'est ça.
Ouais.
Ben, à ce temps, on les voit dans les planchers de danse, là.
Exact. Mais 1973. Konami, c'est en 1973. Le Coleco, en quelle année, vous pensez?
81.
Test de mi?
78. 79. On les 80, voit quand?
82.
Quand on jouait à Donkey Kong, on voyait le brevet.
Et qu'est-ce qu'on, on
82.
76, les boys. 76.
Hey, on a un auditeur d'off. Oui, allô?
Oui.
Parce que là, on rappelle des souvenirs à tout le monde. Oui, allô?
Oui.
Salut.
Salut, ça va?
Oui, ça va.
Hey, moi, mon cousin, il avait une espèce de jeu, je me souviens pas, j'étais plus en Simonac. C'était sur une cassette, comme des cassettes de musique, puis là, il fallait faire rouler la cassette jusqu'à tel numéro.
Ah, sacrément, je l'avais!
Pour aller jouer.
Ah ouais, le Vic 20, le Vic 20.
Non.
Mais le jeu!
Ah, c'était le Vic 20, mais tu connectais ça dans ton Vic 20, t'as raison.
Le dataset.
Le dataset.
Puis là, toi, tu cherches le nom du jeu, parce qu'il y avait des jeux...
Oui, puis non, là, j'avais joué juste une fois à ça, puis là, vous me faites penser à des vieilles niaiseries.
Ah oui, parce que à l'époque, je jouais un jeu, là, puis là, t'étais en attente durant ce temps-là, là, ça pouvait prendre des minutes, là, on parle pas de secondes, là.
T'avais ça, oui, t'as pas facile.
T'avais le temps d'aller faire ton dîner puis de revenir.
Mais je me rappelle, pis c'est vrai, t'avançais au compteur. T'avais un compteur, c'était de tel jeu. Ah, c'est vrai, mais
ah oui.
Hey, là, wow.
Ouais, il fallait que tu partes ta cassette comme à zéro, puis à partir de là, t'étais correct pour savoir tous tes jeux, ils étaient où, là?
Exact. Ah, imagine-tu quand tu dis que t'as un paquet de jeux, c'est la même cassette, tu sais, que ça prend pas grand place, mon gars.
Hey, merci.
Hey, pas trop loin.
Hey, mais je te dis, le monde à soir, ils vont nous rappeler des souvenirs, là. C'est fou. La science, mais on. Oui, vas-y.
Ça, moi, j'avais la même chose quand j'avais le Coco à maison.
Oui, le Coco. Ouais. Coco 3. Ça, c'est le dernier modèle.
Ben, j'avais le Coco 2, personnellement, à ce moment-là.
Mais ah, ça, ouais. C'était pas vendu chez...
C'était pour des cassettes à ruban, là, puis là, on...
Radio Shack.
Il fallait que ça l'autre, puis on pouvait jouer, là.
C'est la marque Tandy.
Exact,
ouais,
exact.
Oui, parce que c'était vendu à travers Radio Shack.
C'est ça, mais ça appartenait pas à Radio... Tu sais, parce que Radio Shack distribuait ces marques-là, mais c'était vraiment Tandy. Puis le Coco 2, écoute, hey, si t'as eu ça, là... Ça veut dire encore là que tes parents ont payé une fortune pour ça. Là.
Mon père, il était gérant d'un Radio Shack.
Oh, Simonac!
Ils avaient-tu les bidules, je pense,
Simonac?
Ah là, là! j'ai construit mes premiers programmes en BASIC dans l'entrée du Radio Shack à Place Vertu à Montréal.
Si bon. Hey, toi, tu devais être, hey, à Noël, là, hein, ça devait être ça le fun,
j'ai TRS 80. TRS 80.
Toi, t'étais le king. Toi, même ta cousine voulait coucher avec toi pour moi.
Laquelle de mes 57?
Hey, en passant, les amis, Coleco. On parle de 1976 et c'est la première console Pong, comme tu parlais tantôt, Test Dummy, qui utilise des circuits intégrés, les circuits analogiques. On va aller à ça, 50$. Il y a eu 9 modèles différents de Coleco qui ont suivi par la suite. Le jeu Breakout, vous souvenez-vous, c'est une espèce de palette avec des briques, puis tu pitches dessus. Là. Ça, c'est en 1976 aussi. Puis en 1976, la compagnie Warner s'empare de Atari. Et en 1977, le Atari VCS est sorti. OK. Et c'est par la suite, en 1977, que le Atari 2600, qui était le Video Computer System, VCS, qui est nommé Atari 2600, le nom de code était au départ Stella. Ils voulaient appeler ça Stella, puis c'est devenu Atari 2600. Il a été lancé en décembre de l'année 1977 au prix de $199. Ça venait avec deux télécommandes et un jeu.
Ouais. Mais ils vendaient 9 jeux qui étaient possibles d'avoir à ce moment-là.
Oui, ben je pourrais pas dire exactement le nombre de jeux.
Il y avait
jeux.
Un jeu de combat de tank, il y avait Indie, Street Racer, je pense, il y avait un jeu de Blackjack.
Hey, mais Test Dummy, là tu me fais allumer quelque chose sur quelque chose. T'aurais pas gardé toi par hasard les anciens catalogues de Radio Shack?
Non.
Vous avez pas ça dans le sous-sol chez ta famille?
Non, j'ai pas ça du tout.
Hey, parce que ça, là, on pourra sortir des catalogues, des images, puis des prix, surtout.
Non, mais fais-toi plaisir, puis regarde l'annonce du téléphone cellulaire de Radio Shack.
Oui, mais...
je pense que c'était pas du prix qu'ils vendaient ça.
Oui, c'était 999, mais ça, je m'en souviens de ça. Mais ça, on la voit beaucoup sur Internet, mais il y a plein de choses. C'est comme le catalogue distribution consommateur.
Ouais.
Je fais tout pour trouver ça, parce que c'est là que tu voyais tes jouets à l'époque, puis
c'était le fun.
L'imaginaire, écoute, là, tu sais, moi, j'étais à terre, j'étais petit cul, tu sais, faut comprendre. Moi, je suis né dans les années 70.
La vanne des Transformers, la capotais-tu, je la voulais-tu, tu penses?
Technologiquement, c'était des avancées. On a un autre auditeur qui voudrait peut-être ajouter un commentaire à ce qu'on dit là. Oui, allô?
Oui, hein, je laisse pas voir, Doc.
Oui.
Ça, dans tes dates, le premier, je pense, ça doit être la première console portable. Moi, je me souviens, il y avait mon cousin qui avait ça, le premier Pac-Man.
Oui.
Il y avait Donkey Kong aussi qui pouvait avoir dans ces petits portables-là.
Hey, reste à l'écoute, je vais y venir parce que j'y monte année par année, mais effectivement, moi, de sortir, c'est quand que le Pac-Man a été sorti. Puis je vais te sortir de l'information sur, entre autres, aussi Mario Bros. Puis tout ça, ça va venir. On n'est pas loin parce qu'on est rendu en 78.
Ouais, c'est ça. Parce que je me souviens, une petite crise de Pac-Man, là, tout le monde veut l'avoir, là.
Ah oui, hey. Pac-Man, Donkey Kong, c'est Super Mario, c'est...
Mais avant ça, par exemple, je m'excuse, c'est quoi ton nom, c'est?
Stéphane,
m'a posé une question, Stéphane, je suis convaincu que tu vas pouvoir y répondre. Oublions Pac-Man, c'est pas Pac-Man. Si je te dis le jeu qui a été le plus grand blockbuster de l'histoire des jeux vidéo...
Le plus grand de toute la gang?
Le plus grand de toute la gang.
Je peux te faire la chanson?
Non, mais je sais pas si tu veux y aller avec une réponse.
J'arrête deux choix, ça soit Donkey Kong, ben non, Mario Bros.
Space Invader.
What?
Space Invader, l'Atari.
Ah, non, j'ai pas connu ça.
T'as pas connu Space Invader?
C'était
Tetris. Non. Space Invader. Space Invader, c'était comme des espèces d'extraterrestres qui descendaient l'écran en bougeant. Puis toi, t'étais
dans toutes les arcades, il y avait ça.
Puis toi, t'étais la petite barre en bas qui se déplaçait puis qui essayait de les pitcher pour les descendre, là. Ça a été le blockbuster de l'histoire du jeu vidéo, puis c'est aussi le premier jeu d'arcade qui sauvegarde le meilleur score. Il n'y a pas aucun jeu vidéo qui a vendu plus que ça.
Ah ouais. Ah, ça avait de l'allure.
C'était avec Space Invader.
Ça me rappelle des souvenirs.
Hey, nous autres, on allait à la messe, puis quand on venait, on allait à la messe, pourquoi? Parce que mon père disait, quand vous allez revenir de la messe des enfants, Space Invader va être là pour vous autres. Parce qu'on y allait, on voulait pas y aller à la messe. Mais on allait à la messe à l'école. Je te jure, Smart. On allait à la messe à l'école. Tu sais, c'était dans le gymnase de l'école de Tincelle.
Oh oui.
On allait voir la messe, c'est le curé qui avait un œil crevé, là.
Ouais.
On allait à la messe à lui parce qu'il avait vraiment un œil crevé, là. On allait à sa messe quand on venait. On voulait juste une fois qu'on avait hâte de donner le 25 cents à l'église parce que quand tu n'allais le 25 cents, il restait 10 minutes à la messe.
Les gars, je vais le mettre, je vais essayer, là. Je sais pas comment ça sort, là.
Le son de Space Invaders. The first game will demonstrate is the granddaddy of outer space shoot 'em ups. A game of worldwide popularity whose coin-op version caused a yen shortage in Japan.
A
game that could not be won, no matter how good the player became.
despite the fact that tournament level players.
Ah ouais, c'est vrai. On entend le bruit en arrière.
Ting, ting, ting. Ah non, non, c'était vraiment,
mais. Puis là, à la fin, ils se mettent à courir, là, quand ils vont vite, là.
Ah non, non, regarde, c'était correct. Mais Atari semble pas avoir toujours été correct, les boys, hein, par exemple. Parce que, vous saviez qu'Atari avait ses propres jeux. Il y avait des créateurs qui créaient des jeux pour Atari. Sauf qu'ils payaient pas. Il y a même des gens qui créaient les jeux que leur nom apparaissait même pas, tu sais, dans le générique, parce qu'il y avait quand même un générique au niveau d'écriture. Fait que c'était en 1979, je vais vous sortir un nom, puis je pense que vous allez reconnaître ça, Activision.
Oui.
Oui.
Bon, Activision a pris part, effectivement, à une naissance, finalement, en 1979. Puis, ça, c'était vraiment avec l'Intellivision, parce qu'après ça, il y a eu l'Intellivision en 1980. Vrai. Vous vous souvenez de l'Intellivision?
Ben, oui, oui, ben oui.
Les courses de chevaux, puis il y avait vraiment des jeux de ce côté-là. Mario Bros, pour répondre à notre auditeur, c'est en 1981.
Oui.
OK? Et en 1980, le Namco crée le jeu d'arcade qui fera fureur au Japon, qu'on appelle Pac-Man.
Oh yeah.
C'est en 1980, Pac-Man. C'est devenu le personnage le plus célèbre des jeux vidéo en passant.
Moi, j'avais tellement joué que je connaissais le pattern de l'ordinateur. Mm-hmm. Donc, je pouvais jouer sans fin.
Oui.
Je pouvais jouer sans fin. Je pouvais jouer 4 heures, 5 heures, parce que quand tu avais découvert le pattern des fantômes, tu pouvais te promener et faire tout le temps le même tableau 26 000 fois.
J'avais fait la même chose avec Mario Bros, le premier. Je le connaissais tellement par cœur que je l'ai... Il y a un concours dans une maison de jeunes que j'ai gagné. J'ai fait le 1.1 puis le 1.2 avec un bandeau sur les yeux.
Es-tu sérieux?
Ouais.
Ça allait bien.
Ouais.
Hey, Donkey Kong, en passant avec... en 1981, il y a eu l'apparition de Donkey Kong avec l'apparition de Mario, qui s'appelait comment Mario à l'époque?
Ben, t'avais Mario et Luigi, là.
Non, mais oublie Mario puis Luigi, là. Comment que ça s'appelait? Moi, honnêtement, j'aurais jamais su, là.
Tu Guy?
Jumpman.
Jumpman.
Ah oui! Jumpman.
Oui, c'est l'ancêtre de Jumpman!
Ben oui! Ouais, mais ça ne dit rien, moi.
Mais il ressemblait pas, là. On s'entend qu'ils sont peut-être dans la même famille, mais ils ressemblaient pas.
C'est comme... non, je m'en souviens pas. Oui, t'as-tu une pause? T'es-tu...
Oui, faut que je fasse une petite pause. Elle va être longue. Elle va être très courte, là. On parle de 45 secondes d'off.
Après ça, on continue ça, ouais.
On continue là-dedans.
Parfait,
après ça.
Okay.
OK, on y va. Vous êtes sur les sur les ondes de XM172. On va faire une petite pause et on vous revient tout de suite après.
Avertissement. Cette émission n'est pas de la fiction. Toutes les voix entendues sont des personnes bien réelles. La preuve?
Ben, c'est qu'il ferait pas autant d'erreurs. Radio Shock and Friends.
Nouvelle référence en suppléments sportifs et nutritionnels au Canada. Naturellement en forme propose une vaste gamme de produits de qualité, tous approuvés par Santé Canada. Nos conseillers qualifiés et formés vous inspireront confiance. Multivitamines, protéines, barres protéiques, boissons énergétiques, créatine ou encore brûleurs de gras. Que ce soit pour perdre du poids ou augmenter votre masse musculaire, faites confiance à Naturellement en forme. Visitez notre magasin en ligne au www.nfquebec.ca ou composez le 418-844-2444.
Radio Shock and Friends.
C'est quoi donc l'affaire?
Ben, l'intelligence de Smart, les niaiseries ad hoc, puis tout le reste du monde qui vient mettre un équilibre dans tout ça. Radio Shock and Friends.
On vous avait dit que c'était court. Ben, c'était court.
Short and sweet. Attention, les amis, si je vous parle de ColecoVision,
ouais.
À quelle année?
Tu l'as dit tantôt.
82. T'écoutes, mon witness.
Mais
toi,
il dit tantôt, il serait pas
là. Non, mais je veux voir s'il écoute.
Là, on coupe le 20.
Non, mais je veux voir s'il écoute.
OK.
Bon, tu sais. OK. En passant, en 1982, Coleco profite pour acheter le hit Donkey Kong. Comment ils ont payé pour avoir ça?
Je sais pas,
on
moi.
On parle de 1982, là.
Ah, pas cher.
2 millions.
10 000.
250 000 $.
Bon.
Ils disent que l'adaptation est superbe, il est vendu en pack, il vient avec la console, puis le jeu passe sous le nez Atari, puis Mattel, donc mais, Mattel, puis Atari.
Mais j'ouvre une parenthèse, Duff. Je pense qu'aujourd'hui, parce que les consoles de jeux, maintenant, regarde, t'as Xbox, PlayStation, Nintendo, c'est ce qui demeure pour la génération qui a été en mesure d'adopter un peu... Tu sais, je veux dire, ça prend une philosophie de vie quand même pour jouer avec une console, là, parce que c'est pas donné à tout le monde, puis il y a des jeux maintenant qui sont des... Tu sais, des phénomènes de société. Mais tu dois t'investir dans ces jeux-là.
Non, c'est définitif.
T'as Nintendo qui sont arrivés avec la Wii, qui est plus familiale, et ainsi de suite.
Mais
ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, puis encore là, je suis pas négatif dans mon commentaire, mais il y a rien de mieux aussi que... Puis j'apprécie la Wii, j'en ai une chez moi, j'apprécie les plaisirs de la vie, puis c'est le fun de pouvoir partager des fois, bon, virtuellement, bon, ce qu'on peut faire avec tout ça, mais... Il reste que il y a quand même un monde réel, puis moi j'ai peur que avec ces technologies-là, je reviens avec mon histoire d'iPhone tantôt, j'ai pas l'impression que tu sais l'homme est meilleur. Il se divertit. On vit dans une société de loisirs. Je peux comprendre, ça change le mal de place.
Tu peux pas changer tout le monde. Smart, faut que t'arrêtes de vouloir. Je comprends que t'as un bel éveil, ouais, une belle pensée, t'es créatif, t'es intelligent. Mais le monde, quand ils veulent une console, ils veulent s'amuser avec.
Je veux profiter de la présence de Tess Domi parce que j'ai vu un moment donné son statut sur Facebook, genre c'était, ben là, vous m'avez perdu pour une couple de semaines parce que là, je sais pas quel jeu que tu faisais référence, Tess Domi, là.
Oui. Puis, c'est que je vais commencer à jouer à Star Trek Online.
Bon, mais c'est ça. Puis là, t'avoues toi-même que t'auras plus de vie, là, tu sais.
Ah, ouais. C'est comme... Moi, ça fait des années que je l'attends, ce jeu-là.
Mais t'es conscient que, tu sais, c'est un mode de vie, tu t'investis là-dedans, puis ça reste que c'est des bits and bytes à l'écran, là, tu sais, on s'entend, là.
Ouais, mais c'est quoi la différence entre soit ça, aller au cinéma, exemple, regarder...
Prendre une marche dehors,
tu sais. En réalité, c'est ma forme de divertissement que je vais préconiser pendant une période de temps. Mais moi, je suis un gamer dans l'âme. Ouais, j'ai eu une business à moi, j'ai eu un centre de jeux en réseau à moi pendant 2 ans.
Mais je veux dire...
C'était ma business, c'était... Pour moi, le vidéo, c'est le jeu, le gaming vidéo, c'était mon gang-pain.
Oui, mais t'es conscient que il y a certaines personnes qui sont pas en mesure de faire cet équilibre-là.
Ah ben oui, mais ça, c'est comme n'importe quoi d'autre.
Oui,
mais tout peut devenir un excès.
Il y a des alcooliques anonymes aussi, puis que...
Oui, je suis tout à fait d'accord, mais ces avancées-là... rendre ces choses-là plus faciles, plus accessibles.
Ouais, mais il faut pas prendre les gens
faut juste pas mélanger le débat, là, parce que l'avance, il y a des gens qui vont passer combien d'heures par jour à regarder Facebook là.
Ah oui,
je suis d'accord.
On s'entend que c'est pas le médium le problème, c'est l'individu. Là.
C'est ça, tout peut devenir une béquille, il faut arrêter de gérer par l'exception, on le fait souvent malheureusement.
Non, je suis tout à fait d'accord. Ça, mais moi ce que je veux dire encore par là, c'est que j'attends quand même des avancées technologiques qui seront pas mais juste là. Pour le loisir. J'en reviens avec...
Ouais, je comprends,
regarde,
mais...
Duff, tu me permets-tu un parallèle par rapport à ça?
Oui, vas-y.
Okay. Je savais que ce soir, on allait parler du futur, OK, puis de l'avancée, puis de l'avancement. Moi, là, dans les films, les choses qui m'ont marqué, mais que j'ai vues, puis que je sais que c'est clair que ça s'en vient dans pas super longtemps, est-ce que vous vous souvenez de Minority Report, rapport minoritaire?
Oui.
OK. Essayez de vous souvenir quand Tom Cruise, quand le personnage se promène à travers les différentes
écrans,
à travers les édifices, puis que les capteurs vont chercher dans ses yeux puis ils projettent la publicité.
Oui.
Ok. Alors regardez où est-ce qu'on s'en va là.
Oui. On est
plus ça va, plus ça devient une publicité qui est ultra fine, pointue, précise et bien livrée.
Personnalisée.
Okay? Oui, personnalisée.
C'est ce qu'on appelle du profilage.
Ok. Fait que tu sais, moi, c'est ça que je vois dans ce qui s'en vient, puis c'est ça que moi qui m'énerve personnellement.
Mais justement, avec toutes ces avancées-là technologiques, puis Duff nous en a fait une panoplie là d'avancées technologiques, puis là, dans les derniers 15-20 minutes, on s'est concentré au niveau du jeu. Mais le jeu demeure quand même une prémisse à des choses qui pourraient se concrétiser. Dans les jeux, on est rendu loin aussi.
Oui.
Tu sais, on a plus...
Virtuel.
Écoute, tu parlais tantôt de Space Invader. Aujourd'hui, là, je m'excuse, là, mais oui, il y a encore des fanatiques de ces jeux-là, puis, tu sais, ça se télécharge encore, puis même Nintendo offre des classiques, toutes les consoles offrent des classiques, mais aujourd'hui, dans les jeux, on est rendu à des jeux de rôle, oui, ça existe depuis fort longtemps, mais on est rendu dans des jeux où tu peux vraiment te personnaliser à l'intérieur de ça, tu sais, tantôt, tu sais, tu testes demi, là, tu viens d'effleurer la personnalisation, aujourd'hui, tu choisis ton skin, tu choisis... ta peau, tu veux dire, tu choisis.
Ouais, non, je comprends.
Tu te construis un personnage. Et des fois, il y en a qui ne font pas cette dissociation-là entre le monde réel et puis là, encore là, je veux pas donner raison à nos médias des fois qui disent que, ah, tel tuerie, c'est parce qu'il y en a un tel qui joue assis. Pis ça.
Non, ça, c'est de la bullshit, là.
Ça, c'est de la bullshit.
C'est de la pure crap, là.
Faut faire confiance aux gens, Smart, parce que de la manière que
j'entends
ton discours, pis ça me tanne un peu parce que la manière que t'amènes ton discours, pis j'ai de la misère avec cette maudite philosophie-là, de tout le temps, c'est comme si tu enfantilises les gens. C'est qu'à un moment donné, là, tu peux t'en servir à bon escient pas à mauvais escient, mais faut arrêter de contrôler. Tu chialais parce qu'il y avait quelqu'un qui disait que ça prenait des pneus d'hiver. Ben, sacrément,
s'ils veulent
jouer laisse-les jouer.
Je vais donner un exemple, la Wii, là, c'est super bien pour les personnes âgées. Ils ont découvert que les personnes âgées ils sont rendus...
mais c'est ça, ils l'ont rendu accessible d'une façon qui avait jamais été faite avant.
Ça, je trouve ça pratique. Mais...
Peux-tu juste t'amuser dans la vie? T'as-tu le droit de t'amuser encore en 2010?
Je veux dire, je peux pas juste non plus...
Je suis pas défaitiste.
C'est juste que je suis sur mon appétit à l'heure actuelle parce que je trouve que nos avancées technologiques comblent beaucoup le volet loisir.
Ouais, mais c'est quoi que les gens veulent? Ils veulent s'amuser aussi. C'est important
oui, mais
de s'amuser. Les gens travaillent 8 heures par jour, peut-être, 40 heures semaine,
oui.
50 heures
puis
semaine.
On va laisser parler Tess Domi, là, ouais. Dans deux secondes, mais moi, ce que j'ai peur, c'est qu'il y a une évasion de l'être humain, une ivresse liée au loisir. C'est ce que je veux dire. Bon. Avant de te parler Tess Domi, on a quelqu'un qui va nous parler, un auditeur. Oui, allô?
Oui, salut, comment ça va?
Salut, oui, ça va?
C'est encore moi. Justement, je disais un article dans Science et Vie, un monsieur qui est sourd, pas sourd, mais muet. Ils ont fait une expérience en collectant des électrodes directement dans le cerveau, dans certaines zones du cerveau. Parce qu'ils utilisent ça, c'est entendu. Puis le cerveau envoie des ondes à l'ordinateur, puis émet le son que le patient veut émettre.
Ah, comme, c'est vrai.
Patate, si le monsieur qui est en question, qui est muet, veut dire patate, l'ordinateur va le dire pour lui.
C'est bon,
là,
ça?
Là, on est rendu loin. Puis ça se fait actuellement, là. C'est pas de la fiction. C'est des projets qui sont en cours, présentement. Ouais,
ouais. Ben, un peu comme les appareils auditifs pour les gens qui sont sourds, ouais. Justement, qui vont entendre une certaine vibration ou quelque chose, justement, là.
Justement, dans le même genre. Dans le même genre, mais sauf que tu l'as, par contre, par ordinateur. On sait aujourd'hui qu'un petit ordinateur de poche ou de main qu'on peut porter dans notre poche peut justement produire, peut faire la même chose que le gros ordinateur.
Oui, puis j'ai vu cette semaine qu'ils vont greffer pour la première fois une rétine.
Oui, c'est possible. C'est fort possible parce que, regarde, là, 50 ans, là, des cristallins, ça se greffait pas, ça, là.
Non.
T'avais pas ça, une prothèse pour ton cristallin, là, pour voir. Puis aujourd'hui, ça se fait comme si rien n'était. Ça, une heure et demie, puis tout est fait, ça vient de finir dans par là.
Mais tu sais, Grognon, quand t'écoutes Smart qui nous dit qu'il n'y a plus d'avancée technologique...
Non, écoute,
laisse-moi terminer. Mais qu'il n'y a plus de grandes nouveautés, je m'excuse, mais quelqu'un qui se fait greffer un œil, c'est pas une beauté
de la génération,
c'est quoi?
Tantôt, j'ai dit « sauf le médical ». Tantôt, je vais t'en sortir la tête, okay. J'ai dit « sauf le médical ».
OK.
Ça, du côté médical, on avance. Parce que, justement, on a des prothèses, des orthèses maintenant qui peuvent remplacer des membres entiers. On est capable de greffer des mains. On est capable de greffer les... Regarde, on est rendu aux yeux, aux oreilles. Puis Grognon, ce qu'il apporte là, je l'avais entendu parler justement, tu sais, que le champ magnétique, par les transmissions électriques du cerveau, sont capables de convertir ça dans un langage à partir d'un ordinateur.
Parce que le cerveau émet des ondes, émet du courant électrique.
Oui, puis...
Ça, c'est officiel, ça, là. Même les synapses du cerveau, s'ils sont brisés, vont pouvoir se reconstruire parce que par besoin.
Mais je vais prendre un exemple, Grognon, on tombe au bout du fil, on a Tess Domi, là. Regardez, dans les films futuristes puis de science-fiction, qu'est-ce qu'on voyait côté bouffe? On voyait tout le temps une pilule.
Oui.
Exactement.
Mais pourquoi aujourd'hui, on a encore des problèmes de société avec les obèses, les si, les crises cardiaques?
Parce que c'est un plaisir de manger quelque chose.
Ouais.
T'as pas le plaisir à prendre une pilule.
Ouais, mais pourquoi on peut pas développer des aliments qu'on aurait, regarde, ça coûterait la stie de marde, ça goûterait la scrap, mais ça serait bon pour la santé. On n'est pas capable de faire ça, toi. Des arômes de poutine, mais avec quelque chose qui est bon.
Ils ont fait des chips à poutine.
Mais là, tu le plaisir de manger, là, à ce moment-là.
C'est ça. T'as un bon steak saignant qui coule dans ton assiette.
Parce que, en faisant ça, par contre, j'ai lu un article là-dessus. En faisant ça, justement, tu atténues les papilles gustatives.
Non, mais mettons que je te sers un steak, Grognon.
Tu atrophies les papilles.
Non, mais je te parle pas de te servir une pilule. Je te sers un steak comme tu le connais avec la même sauce. Sauf que ta sauce, là, c'est rien, c'est du vent, mais ça goûte pareil. Tu la manges pareil comme d'habitude, mais
ça va être chimique à ce moment-là.
Oui, mais moi... Ouais,
ça se fait aujourd'hui.
Tu
parles, même des steaks avec des fibres, ça se fait. Ça fait une vingtaine d'années.
Ben moi, je suis pour ça. Tu sais, quand ils chialent pour la manipulation génétique, là, moi, je suis pour ça.
Ben moi, le débat, me t'as le dire, c'est quoi le débat là-dessus? Puis là, on va changer de sujet parce qu'on s'éloigne du sujet. Le débat, là, c'est l'exercice physique. Mange toute la merde que tu veux, mais fais du sport. Tu vas brûler la merde que tu manges.
Oui, je sais, Dorf.
Moi, je dirais...
Ça s'arrête là.
J'essaie de stopper.
Changement de propos, là. Moi, quand je regarde mon laptop, là, je le trouve dinosaure pas mal. Puis tu sais pourquoi je le trouve dinosaure?
Pourquoi?
Pour une raison simple, c'est que faut que je tape dessus. tu sais, t'as écouté les émissions de Star Trek avec de Star Trek avec Capitaine Kirk?
Oui.
Ben j'aimais ça, moi, parce que j'aimerais ça avoir un ordinateur de même. Je demande à mon ordinateur un programme, il me le sort. Point final, là, il faut que je te dessus.
Ah ouais, toi tu veux dire l'ordinateur.
Ça c'est de la reconnaissance vocale, mais ça existe depuis de nombreuses années.
Oui, mais les aveugles l'ont, mais c'est pas à point. J'ai eu une émission là-dessus, puis c'est vraiment pas à point. Il y a des fois qu'il y a des programmes qui est demandé vocalement, les amènent ailleurs. C'est pas exactement ce qu'ils demandent.
Ok. Hey.
Ouais, pas toutes là, mais ça se développe. J'espère que ça va venir un jour, d'ici une dizaine d'années, on va l'avoir. On va être capable de faire exactement ce que c'est qu'on voit dans Star Trek. C'est peut-être utopique, tu vas me dire, mais regarde.
Ah, non.
Ben, moi... Ça dépend des technologies.
Oui.
La technologie avance à tous les six mois, tu sors un nouveau programme, il sort de nouvelles technologies. Puis, au bout d'un an, ils sont rendus vieillots, là. C'est officiel. Regarde, la télévision, télévision et écran plat que j'ai, là, dans à peu près un an, là, il va y avoir une autre télévision qui va faire qu'elle va être encore plus performante que celle que j'ai achetée actuellement.
Oui, mais là-dessus, Grognon, tu sais, je suis d'accord, parce que technologiquement, mais je veux dire, la télé, elle projette des images. C'est comme le four micro-ondes. Ils n'ont rien inventé de nouveau. Le four micro-ondes.
Non, c'est de l'amélioration.
Il s'améliore, mais c'est là que je veux dire, les avancées technologiques.
La modernisation.
Les changements, il n'y en a pas. On se miniaritise.
Wow! On se magnagmatise!
Ça devient de plus en plus... Non, mais ça devient de plus en plus petit.
Oui, mais plus en plus petit, mais plus en plus performant.
Exact.
Oui, il n'y a rien de nouveau.
Hier, le gros cellulaire, puis tu prends le cellulaire d'aujourd'hui, il y a une grande marge.
Gosh, d'accord avec Grognon.
Comme dirait Patrick Huard, je peux te le crisser dans le cul, ton cellulaire, tellement qu'il est rendu petit aujourd'hui.
Mais avant, si tu te le crissais dans le front, tu tombais terre, hein.
Hey, merci Grognon pour ton commentaire.
C'est parce que tu veux dans ce que tu veux en venir, Smart, c'est ça, c'est que la technologie au niveau société, c'est minime. Tu sais, c'est rien d'améliorer des choses, rajouter un gadget, mais ce que tu parlais là d'arriver avec une technologie qui peut changer des affaires vraiment là, c'est au niveau militaire ou au niveau médical, ça va se passer d'abord et avant tout. Après, ça va être peut-être apporté au niveau société.
Comme Internet, c'était les militaires Internet.
Les militaires Internet.
Un projet d'ARPANET là, au départ là.
Oui, mais je veux dire,
s'il vous plaît, que personne me dise que c'est Al Gore qui a inventé ça parce que j'ai tiré une balle.
Virtuel.
Ouais. Hein? Al Gore, tout ce qu'il invente, c'est des fausses histoires.
Un test de vie pour protéger tes propos, on va dire que c'est une balle virtuelle.
Une balle virtuelle.
Avec quelle console?
Ah, en passant, là, je sais pas, test de vie, t'avais-tu de quoi dire ou j'ai
pas de
choses? Ah oui,
parce que là,
par rapport à l'avancée, tu sais, ça revient rejoindre à ce que tu disais, Smart, tantôt. C'est que t'as l'impression un peu que ça s'en va juste au niveau du divertissement. Mais est-ce que tu as regardé qu'est-ce que Microsoft développe avec le projet Natal?
Non.
Je t'en prie. Regarde ça.
Natal. Okay?
Natal. N-A-T-A-L.
Qui se trouve
en fait, ça se trouve à être le nom de la ville de naissance du gars qui est responsable du programme chez Microsoft. Puis ça, ils développent ça pour leur prochaine console de jeu, là. Ça va être sacré à terre, là.
C'est quoi,
tu regarderas la vidéo sur YouTube.
Ouais, là. Ben, c'est ce que je regarde.
Incroyable.
Ça a été présenté au E3, d'après ce que je peux voir.
Oui, mais l'année passée.
Non, mais je vois.
14 mois, là.
Oui, je vois les images et les gens, parce que là, il y a Nintendo avec la Wii qui ont trouvé ça super, puis aujourd'hui, vous appréciez tout ça. Mais c'est vrai, je connaissais pas le code name.
Exactement,
là,
ouais.
Mais, ben, je veux dire, c'est...
Le nom de code.
Mais je veux dire, c'est quoi la technologie? C'est encore plus performant que la Wii? C'est quoi pour les gens?
Ça pouvait être... tu sais, avec la Wii, ils ont révolutionné le jeu avec la manette que tu pouvais te développer, de l'utiliser dans un espace 3D, si tu veux.
Exact.
Mais tu as quand même la manette qu'il faut que tu utilises. Alors que la nouvelle console, le nouveau projet Natal, ça se trouve à être un senseur qui fait à peu près 9 pouces de large, qui est placé au-dessus de la télévision. Puis ça fait de la reconnaissance en 3D perpétuelle. C'est-à-dire que peu importe qu'est-ce que tu fais, puis là ça reconnaît les couleurs, ça reconnaît les
T'as plus de manette. T'as plus de manette dans tes mains.
Ça va chercher les points d'identification au visage. Puis là, ben maintenant tu vas pouvoir jouer à des jeux, faire des choses.
Des mouvements.
Des mouvements sans sans aucun, sans console, sans, excuse-moi, sans manette, sans rien.
Garde, test de mieux, on va revenir. Je me souviens d'avoir vu un film qui faisait venir, tu sais, les écrans de même. Il pesait sur les boutons avec sa main.
Minority Report.
Minority Report. Puis, tu sais, il switchait les pages.
Ils l'ont montré dans Minority Report, ça. Puis ça, là, cet écran-là, où ce que tu peux amener ton doigt, puis ta main, puis déplacer les instruments, c'est une compagnie à Montréal qui fabrique ça.
L'autre film que je me souviens avait des gants. Il mettait des gants, puis il faisait un peu la même chose, là. C'était un jeune, il appelait ça Pirate. Tu sais, il tombait dans un... En tout cas,
C'est pas le cobaye, non?
Oui, peut-être. Oui, c'est ça, le cobaye, avec le jeune qui est mort. Je pense qu'il a fait un overdose.
Non,
c'est lui
cobaye,
qui jouait dans Terminator 2.
Je pense que c'est ça, le cobaye,
le
mais...
Le fils à la femme, là, dans Terminator 2.
Le fils à la femme qui avait un père, là.
Ouais, c'est ça. C'est un peu compliqué, sur Terminator. Mais justement, je vais en venir à Terminator, puis c'est... On regarde assez souvent le côté technologique comme un côté...
C'est fort!
Non, mais on regarde ça comme un côté destructeur. Pensez à Mad Max, là, en effet, une fois
un Thunderdome.
Mais c'est vrai pareil. On associe assez souvent le fait que la technologie va mener...
À la destruction.
À la destruction de la Terre par la ville, les gratte-ciels, par l'absence de denrées très importantes, l'eau, l'air, ces choses-là. Tantôt, vous me trouviez défaitiste, mais je pense qu'on s'en va vers là quand même, parce que je me dis, si les gens...
La machine bat l'humain.
Ben, c'est ça. Puis si on se virtualise, je pensais pas à concevoir peut-être un jour, puis je le lisais dernièrement dans les journaux, que ils regardent du côté japonais aussi pour avoir beaucoup plus de robotique. Puis des robots qui vont faire le ménage, puis des robots qui vont faire ci, puis ça. Puis, tu sais, on a regardé des films de science-fiction, puis on se disait, quand est-ce que... Puis c'est dans Terminator, justement, que c'est un ordinateur qui prend le contrôle des décisions humaines.
Skynet.
Ouais, c'est ça, mais ça s'en vient là, pareil. Puis on regarde la convergence de nos médias, c'était là-dedans un peu. Hey, on a un auditeur aussi qui voudrait ajouter un commentaire. Oui, allô?
Salut, oui, salut, c'est François.
Salut, François.
Salut, je vous écoute depuis tantôt, vous parlez de jeux vidéo, de technologie, de iPod, puis de Walkman, puis tout ça, mais je pense qu'il y a une chose qui a changé vraiment au niveau social, la société, là, de 100%, puis c'est la molécule, la pilule anticonceptionnelle.
C'est vrai, oui, effectivement.
Ah oui, la manipulation génétique aussi, puis tout ce qui est côté médecine, tout ce qui agit sur le métabolisme
quand
du
tu contrôles la fécondité, là.
Sauf que ça a changé le rapport de force entre pour une première fois dans l'histoire. Imaginez, là, pour une première fois dans l'histoire de l'humanité, la femme pouvait contrôler ses grossesses. Elle était plus, là, était plus obligée de se plier, là, à ce que l'homme voulait faire. Ça a tellement changé que ça a créé des groupes féministes. Ça a créé tout le mouvement d'émancipation de la femme. Je pense qu'il n'y a pas plus, il n'y a pas une invention, là, technologique qui a changé la société aussi fondamentalement.
Ben, je te dirais.
Oui, mais la pilule, c'est pas ça qui a fait que les femmes ont été capables de prendre leur place, là. Ces mouvements-là existaient depuis bien avant ça, là.
Oui, je suis d'accord avec
moi.
Moi,
c'est ce que j'étudie. C'est mon champ d'étude, ça, là.
Ça part des suffragettes, puis ben avant, là. Je suis d'accord avec toi. Mais... Sauf que ça a donné un moyen boost.
Oui, mais
ça a été comme n'importe quel autre. C'est un instrument qui a permis de se rendre plus loin.
Ouais, mais c'est vrai que, puis c'est ce qu'on disait tantôt, François, c'est que les avancées technologiques, tu sais, tout dépendant du tata, des fois, je peux utiliser le mot tata qui utilise ça, puis des fois, c'est pas juste une personne, c'est des gouvernements, c'est des groupes de pression, ça peut être des gens aussi malveillants qui veulent manipuler peut-être aussi les orientations d'une société. Toutes.
Je sais pas qui a dit tantôt, mais les deux sphères où il y a le plus de recherche, c'est le militaire. Après ça, le militaire s'en sert, c'est appliqué au médical. Après ça, c'est appliqué au grand public.
Oui.
Le laser était comme ça. Si vous avez l'Internet, c'était une application militaire au début. On oublie tout cet aspect-là. On peut élaborer toutes les théories de complot possibles que les pétrolières ont tué le gars qui a inventé le moteur à eau, ça, j'entends ça. Puis je suis chum que le moteur à eau existe. Mais je pense qu'il faut regarder. Si on aborde quelque chose, il faut regarder des langues bien précis, puis dire, bon, OK, le militaire, regardez tout ce qu'il y a, tous les drones aujourd'hui en Irak, tous les satellites, regardez ce que Reagan voulait faire avec sa guerre des étoiles, puis le bouclier, en tout cas...
Mais François, j'ai une question, est-ce que ça te fait peur, ces avancées technologiques-là? Est-ce que tu as peur de, justement, qui pourrait l'utiliser?
Absolument pas. Le monde sont assez intelligents pour même qu'il y ait un fucky qui veut l'appliquer ça d'une façon trop drastique. Le monde va les arrêter. Prenez la bombe nucléaire. Et Einstein a écrit des lettres. Oppenheimer a écrit des lettres. Tous ces grands scientifiques-là qui ont participé, ils ont écrit, puis ils ont effectivement dénoncé ça. Non, faut pas avoir peur de la technologie. Faut pas avoir peur du futur. Au contraire, je pense qu'on est dans un... Moi, je suis pas jeune. Je suis un baby boomer. Puis moi, j'ai vu tout ça, cette évolution-là, là, toutes les... pour revenir à vos technologies, là, la vidéo, là, la patente qui est arrivée. Là. Puis je me dis, vous avez encore rien vu à 35 ans, donnez encore 20 ans, puis vous allez voir la nanotechnologie qui va arriver, puis en tout cas, ça va être épouvantable, puis tant mieux si c'est comme ça. Arrêtons d'avoir peur de se replier, de revenir au appel à charbon.
Non, ça c'est sûr qu'on veut pas retourner là. Je pense... Gars. Merci, salut, bye.
Merci, bye-bye.
Hey, mais c'est vrai ce qu'il dit, par contre. Je pense que chaque technologie... L'important, c'est qu'elle soit bien utilisée. Puis c'est vrai que ça a plein de bon sens ce que François vient de dire. Je me dis, à quelque part, il y a sûrement des gens qui voudraient peut-être en faire des, tu sais, des fiascos technologiques, dans le sens où ils voudraient peut-être les mal utiliser. Puis je pense que il y a une grande partie des gens qui vont ramener ces gens-là à l'ordre. Fait que je me rallie derrière vous.
Hey, Doc, je veux juste dire deux dernières stats très rapidement concernant les jeux vidéo que les gens, je pense que ça va un petit peu les allumer aussi, là. Le jeu Pitfall, en 1900...
C'était mon jeu préféré.
Ça. Moi aussi, c'était le mien, là. En 1982, vous pensez que ça s'est vendu à combien d'exemplaires?
Ah, c'est des millions.
Wow, 13...
4 millions d'exemplaires. Mais 4 millions, c'est pas beaucoup comparativement à 1983. Les ventes d'Atari étaient rendues où à ce moment-là?
Ah, c'est pas.
25 millions de consoles Atari ont été vendues dans le monde. Et Coleco, en passant, a été placé en faillite en 1988. Ça, je savais pas ça, effectivement. Non. Et
D'ailleurs, Atari, Coleco, tous ces grands noms là, il y a juste Nintendo, même Sega a été racheté dernièrement, donc il reste plus. Puis c'est normal aussi, hein.
Il y a la consolidation là.
Ouais, il y a la consolidation. Puis aujourd'hui, c'est, tu sais, je veux dire, puis même dans le monde du développement du jeu, on en voit là qui se fusionne beaucoup.
Juste pour faire un parallèle, on parlait d'Atari 25 millions d'exemplaires vendus. La console PlayStation 1 en 97 a vendu 20 millions d'exemplaires. Ah ouais.
Non, mais aujourd'hui, on est au-delà de ça, Duff.
Ouais, non, c'est sûr, aujourd'hui, j'avoue.
On a unifié ça, et maintenant, les consoles, juste le Japon, là, puis la, regarde, c'est débile ce qu'ils peuvent consommer. Il y a Witness qui veut nous rajouter quelque chose.
Oui, vas-y, Witness.
Ouais, ben,
qui est un adepte des consoles, Witness.
Ah, ben oui. Non, c'est que, justement, on parlait de militaire, médical, puis tu parlais tantôt de Terminator. C'est que les Américains sont, puis sûrement d'autres pays vont s'ajouter à ça, sont à l'étude du super soldat, ce qui va être assez bien équipé.
Biotechnologie.
Ah oui, c'est le fun que t'en parles, Witness.
Il va avoir des jambes, c'est comme des jambes articulées.
Biotechnologie, là.
Qui vont lui ajouter de la puissance.
Un Robocop.
Bionix, c'est du Bionix.
C'est à l'essai, parce que les Américains l'essayent, justement. Puis il va pouvoir faire des courses ou des sauts ou de grimper plus rapidement sur des obstacles.
Imagines-tu le coup de pied dans le cul qu'il peut donner?
Des cyborgs.
Ouais, c'est ça, des cyborgs.
Est-ce que me permets-tu vite une question, Smart?
Oui, vas-y. Il reste trois minutes, vas-y.
Alors, regarde bien. Les premières voitures électriques, on parle de quoi?
1985.
Ouais. OK. Vous autres, les autres?
Je t'aurais dit,
Début du siècle?
Ouais.
OK. Les premiers véhicules électriques, là, qui ont été inventés, c'est en 1880. Ça se trouvait être un petit véhicule qui transportait 6 personnes.
Ah, ouais.
En 1880.
Hey, regarde, je suis encore de 100 ans.
Ensuite.
Bottez-moi le cul.
C'est devenu, ça a commencé à être popularisé assez fort. Puis, vers la fin des années, 1900, au début des années, genre 1890 et plus, il y avait un peu plus de 30 000 véhicules électriques aux États-Unis. OK? Puis ça allait vraiment bien, leur affaire, là. Le salon de l'auto de Paris de 1900 était celui-là qui avait le plus... C'est là où ils ont eu le plus de véhicules électriques présentés dans leur histoire. De toute l'histoire, là.
On parle de 1900, là.
De 1900.
Hey, c'est quelque chose.
OK? Celui-là, ça va vous faire rire. Moi, j'ai appris ça d'un ami, d'un Français, il y a quelques semaines. La voiture qui a eu le record de vitesse en 1999, elle s'appelle la Jamais Contente. C'était le gars qui a construit là-dessus, qui a construit ce char-là.
Il passait à sa blonde, en fait.
Il chialait tout le temps parce qu'elle passait tout le temps. En masse sur son auto. La voiture a atteint une vitesse de 105,88
km/h. Aïe, aïe.
C'est une voiture électrique, le 1er mai 1899.
Hey, test d'omie, je t'arrête. Il reste une minute à l'émission, mais là, je te donne une mission. Okay. Il y a seul toi qui peux la relever. Trouve-nous des contacts. La voiture électrique, je veux qu'on ramène ça à l'émission.
Exact, moi aussi.
J'ai fait une note Facebook là-dessus, le... un an là-dessus.
En 2010, on en parle. Et sérieusement, il reste peu de temps. Puis regarde, il reste à peu près 40 secondes. On ne pourra pas couvrir le sujet. Et je tiens à ramener ce sujet-là. Donc, je remercie tout le monde ce soir. Ça a été super passionnant. Puis vraiment, là, le show, on n'est plus capable de le faire fitter en 2 heures.
Non, j'avoue.
On a la preuve, là, chaque semaine, surtout depuis le début de l'année, c'est incroyable. Il reste 30 secondes, genre, quand le temps coulé. Je ne sais plus quoi dire, à part que bonne semaine, tout le monde.
Merci beaucoup, tout le monde. Bye.
On se retrouve la semaine prochaine.
Bye-bye.
Wow, wow, fais-toi-en pas. C'est fini pour cette semaine, mais les gars vont être là la semaine prochaine. Puis l'autre après. Tu comprends le principe? C'est ça, Radio Shock and Friends.